Bonjour tout le monde, bonjour toutes et tous. Donc merci d'être présent pour cette deuxième édition des Amuse-Bouches de la chaire Transition Alimentaire, Tralim. Alors je vais redire un ou deux mots sur la chaire. Désolé pour ceux qui ont fait la première édition, parce que du coup vous retapez l'explication, mais je vais être court, je vous promets, simplement pour vous donner le contexte. Donc moi je suis Maxime Michaud du centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse, puisque cette chaire, c'est une chaire collaborative, donc une chaire qui regroupe l'Institut Paul Bocuse et l'Université Lumière Lyon 2. Le but, c'est ensemble d'accompagner tous les acteurs de la transition alimentaire en produisant de la connaissance dans plein de domaines différents et plein de disciplines, donc en associant les expertises qu'on peut avoir à l'Institut Paul Bocuse et les très nombreuses expertises qu'il y a à l'Université Lumière Lyon 2, et puis aussi par la formation, de former les acteurs de demain qui vont pouvoir continuer à travailler sur ces transitions alimentaires, parce qu'elles ne sont peut-être pas uniques, elles sont multiformes, et donc elles prennent plusieurs dimensions. Donc, je n'en dis pas beaucoup plus, vous avez les petits livrets qui vous donnent plein d'informations, et puis le site internet sur lequel vous pouvez aussi retrouver en enregistrement audio, en podcast, les séances des Amuse-Bouches. Donc si vous avez raté la précédente, où on avait la chance d'avoir Isabelle, Masson, c'est pas Isabelle. Merci Béatrice de me sortir. Estelle Masson, pardon, voilà, merci, c'est revenu. J'ai pas de parachute. Donc voilà, donc vous avez Estelle Masson, vous pourrez aller réécouter son excellente intervention sur les représentations sociales liées à l'alimentation. Et puis celle d'aujourd'hui aussi, si vous n'avez pas tout compris du premier coup, vous pourrez aussi la réécouter et transmettre aux autres. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter si vous voulez rien rater de ce qu'on fait. Je laisse la parole à Béatrice qui va introduire plus précisément l'édition du jour. Juste un petit mot pour remercier la métropole de Lyon et notamment l'équipe qui s'occupe de la Cité internationale de la gastronomie de nous accueillir ici. C'est toujours un plaisir d'avoir un aussi bel espace, aussi intéressant pour faire ces événements.
Merci Maxime, merci à tous d'être présents et présentes ce soir. Merci également aux intervenants qui n'en a aucun lyonnais. Donc ils vont vous expliquer ça, donc ils viennent tous d'un peu loin. Donc on les remercie aussi pour ce temps qu'ils prennent pour discuter avec nous ce soir. Et puis merci également à Hélène Chauveau qui est tout à fait dans le fond et qui est indispensable à l'organisation de la chaire. Ce soir on va échanger, donc la séance elle porte sur la mobilisation des acteurs dans les transitions alimentaires territoriale, et donc on va faire ça à plusieurs voix, on est quatre, donc Béatrice Morine, moi-même, donc je suis sociologue-anthropologue à l'Université Lyon 2, pour la chaire Transition Alimentaire, responsable ou co-animatrice de l'axe qui s'intitule Gouvernance Territoriale, Acteurs et Institutions. Et puis nous avons avec nous aujourd'hui donc Samuel Chabré, ici présent, et qui nous parlera d'un tiers-lieu nourricier qui est à Ambierle, dans le Rouennais. Ensuite, Émilie Juan, qui est chargée de mission à la CAPCA, la communauté d'agglomération Centre Ardèche. Et puis Claire Lamine, qui est sociologue, directrice de recherche, Aline Rahé, dans une équipe à Avignon. Voilà, donc on vient un petit peu d'endroits différents, on a des pratiques professionnelles également différentes, et l'idée sur cette question de la gouvernance alimentaire, c'est que nos travaux, des uns et des autres, les manières que l'on a travaillé, circulent à la fois entre nous, mais également avec vous, sur les différentes expériences, puisque j'en connais un certain nombre d'entre vous qui travaillaient déjà sur ces questions de l'alimentation. Donc je vais dire deux mots en fait sur l'axe gouvernance, institutions et acteurs de la chaire transition alimentaire pour vous expliquer un petit peu ce que l'on fait dans cet axe particulier. Je dirais que par rapport à la dernière fois, on était plutôt sur la question des dynamiques alimentaires et le comportement des acteurs, et sur la question des représentations des consommateurs. Aujourd'hui, on va être davantage sur la question des logiques et des stratégies organisationnelles qui sont développées par les acteurs. Ces acteurs, ils sont multiples. Quand on parle de gouvernance, généralement, on pense aux politiques institutionnelles, aux politiques publiques. Et en fait, la manière qu'on va de l'aborder ce soir, on est beaucoup plus transversal que ça. On est sur des expérimentations. On est sur le cadre de l'action publique également. Et puis, ça n'oublie pas qu'effectivement, les politiques publiques sont là, derrière quasi chacun de nos faits et gestes. Par exemple, sur les questions de l'alimentation, on est à la fois sur des politiques sanitaires, des politiques sociales, des politiques nutritionnelles, mais également des politiques économiques, des politiques écologiques, où parfois ces différentes politiques publiques s'articulent les unes aux autres pour favoriser les transitions alimentaires, et parfois ça travaille un peu trop en silo sans doute pour favoriser justement ces transitions alimentaires. Donc pour nous c'est aussi une des questions de comprendre cette complexité des politiques, comment elles s'articulent ou pas, et parfois elles sont contradictoires également, mais ça on y reviendra peut-être un petit peu tout à l'heure. Et puis on a donc divers acteurs qui travaillent sur des interfaces, donc c'est les élus, c'est des techniciens, c'est des structures associatives qui favorisent une alimentation de qualité sur les territoires, que ce soit les territoires urbains ou les territoires ruraux. C'est aussi des acteurs qui peuvent être du secteur touristique ou du secteur culturel qui vont favoriser des fêtes autour de la question de l'alimentation, par exemple. Donc on a effectivement une foultitude d'acteurs qui peut s'intéresser à cette question, la gouvernance territoriale alimentaire, chacun avec des savoirs et des savoir-faire et des compétences, et que du coup on ne va pas pouvoir traiter tout aujourd'hui, mais simplement sans doute vous donner un aperçu sur la question de la mobilisation des acteurs et qu'est-ce qu'on appelle mobilisation des acteurs. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la chaire sur ces thématiques-là? Alors, la chaire, elle n'est pas très ancienne, mais quand même, on avance déjà un petit peu et on a défini un cadre que vous pouvez retrouver sur le site de la chaire Tralim. Tout d'abord, c'est l'étude des manières de gouverner les territoires agricoles ou agri-alimentaires, suivant la définition qu'on veut donner au terme, à l'interface du coup des réseaux d'acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Parce que ça ne va pas de soi, en fait, que ces différents acteurs travaillent ensemble, parfois. Et c'est également de le faire à différentes échelles territoriales qui vont du niveau international, avec les politiques comme celles qui sont gérées par la FAO ou par le PNUD, etc., suivant les territoires et les questions qu'on se pose. C'est aussi les politiques européennes, les politiques nationales et les politiques locales. Pour mettre tout ça en synergie et pour tout aller en même temps et à la même vitesse, vous imaginez bien que c'est bien compliqué. C'est favoriser aussi l'interconnaissance de la diversité, mais également des spécificités de ces différents acteurs, et qu'il n'y a pas d'évidence à ce qu'effectivement ça communique bien ensemble et de façon spontanée. Donc il y a des nœuds qu'on peut essayer de réfléchir, et c'est aussi des particularismes qui sont liés aux territoires locaux. On va parler de deux territoires d'Ardèche tout à l'heure, et on n'est pas du tout sur les mêmes territoires. Voilà. Et moi, je pourrais en parler d'un troisième territoire ardéchois qui touche les deux autres, et alors là, ça ne marche pas du tout de la même manière non plus. Donc voilà, ces particularismes, ils sont géographiques, ils sont sociaux, ils sont économiques, mais ils sont aussi écologiques. Troisième point, c'est qu'il me semble que les effets des manières de gouverner les territoires alimentaires sur les modes de consommation concernent aussi différents types de consommateurs. Et ça, c'est un des points sur lequel je vais intervenir tout à l'heure sur mes propres travaux de recherche. Il y a beaucoup de travaux qui aujourd'hui traitent la question de la précarité alimentaire. Vous le savez, parce que beaucoup d'entre vous travaillent déjà sur ces questions-là. Et précarité alimentaire, ça peut être pour un certain type de public, les publics étudiants, les publics qui sont en dessous du seuil de pauvreté et qui ont bénéficié de l'aide alimentaire. C'est aussi des réflexions sur les publics qui sont juste au-dessus du seuil de pauvreté et comment du coup on répond à la fois dans nos recherches mais également dans les interfaces dans la gouvernance territoriale alimentaire à ces questions-là. C'est également comparer, me semble-t-il, les territoires. Alors on a dit urbains et ruraux tout à l'heure, mais c'est aussi, me semble-t-il, de réinvestir la question internationale et d'être en capacité de comparer les territoires des nord et des sud et de voir ce qui se passe dans ces différents territoires, parce qu'on ne les gouverne pas de la même manière et que parfois il y a des expérimentations qui se passent dans les suds qui sont extrêmement riches d'enseignement pour la France ou pour certains types de territoires. Un autre objet qu'on peut aussi travailler sur cette question de la gouvernance, c'est la question de la structuration des filières alimentaires sur les questions d'approvisionnement. Et ça, c'est des grosses questions pour les territoires urbains, c'est-à-dire comment on approvisionne la restauration collective, de la crèche jusqu'aux universités, sur ces questions de la restauration collective. On a beaucoup de travail à faire sur ces questions. Et c'est aussi de réfléchir aux systèmes alimentaires locaux sous l'angle de la coordination des acteurs. On l'a vu tout à l'heure, hein, c'est pas évident cette coordination, mais également du choix des modèles économiques. Et ça, je pense que tout à l'heure, on pourra en reparler parce qu'on a des collègues qui sont spécialistes de ces questions-là, et puis qu'effectivement, on n'est pas non plus exactement dans les mêmes modèles économiques dans les différentes expériences dont on va parler. Et le dernier point qui m'importe aussi beaucoup, me semble-t-il, dans la chaire, c'est toute la question des innovations territoriales autour de projets et comment on renouvelle dans ces nouvelles approches, alors qu'on pourrait nommer tiers-lieux, nourriciers, qu'on pourrait appeler Fab Lab ou que parfois on peut nommer autrement, juste une ferme, mais où les pratiques... ben oui, juste une ferme. Tu vois, je veux dire, la ferme des volonteux, il ne s'appelait pas tiers-lieux avant quelque temps. Donc voilà, il se pose... Ben oui, c'est comment on change de dénomination et quels sont les effets des dénominations. Donc voilà, sur des nouvelles manières d'organiser le travail, de nouvelles manières de penser la question de la production et d'aussi animer la ressource. Alors quand je dis la ressource, c'est la graine, par exemple, comment on l'anime et quel effet ça a sur le collectif de travail et sur la manière dont on va entraîner des formes de consommation peut-être un petit peu différentes. Je ne vais pas être très longue. Il me semble en tous les cas que ce qui nous intéresse dans cet axe de la chaire, qui s'articule aussi, bien évidemment, vous comprenez bien, on n'est pas des axes qui sont autonomes et cloisonnés les uns par rapport aux autres dans la chaire, mais bien des aspects particuliers qu'on met au travail. C'est cette question des systèmes alimentaires résilients, en fait, hein, qui nous semble important pour favoriser les transitions écologiques et alimentaires. Ce qui me semble aussi important à dire, c'est que dans ce cadre-là, pour la chaire, sur cet axe comme dans les autres, on travaille à la fois dans de la recherche fondamentale, mais aussi dans des recherches collaboratives, des recherches appliquées, qu'on expérimente, on n'est jamais complètement sûr de nous. Il y a plein de choses où on patine un peu, on pourra en parler aussi. Et puis, c'est aussi d'être accompagné par beaucoup d'étudiants, certains d'entre vous le sont ou l'ont été, que ce soit dans les masters, qui travaillent sur ces questions-là en stage, qui font des doctorats, et qui donc aussi animent le renouveau des thématiques sur ces questions alimentaires. Je ne vais pas être très longue, très rapidement, ce sur quoi je travaille, pour vous donner quelques petites idées qui vont après circuler, je pense, entre les uns et les autres. Alors je dirais qu'en gros, moi, j'ai commencé à travailler sur les circuits courts alimentaires il y a une quinzaine d'années, sur un territoire rural, qui n'est pas les deux dont on va parler tout à l'heure, dans l'objectif de comprendre ce que c'était que les circuits courts alimentaires, comment ils s'organisaient. C'était une époque où effectivement, c'était des thématiques qui étaient assez innovantes. Alors je dirais maintenant, circuits courts alimentaires... Tout le monde travaille là-dessus. Donc on n'est pas encore has-been, parce qu'on n'est pas encore arrivé aux transitions alimentaires qu'on pourrait souhaiter les uns et les autres. Et donc dans ce cadre-là, j'ai réalisé un film qui s'appelle « Les circuits courts, gouverner, innover dans les territoires » et qui compare trois manières de gouverner les territoires alimentaires sur un territoire rural, un territoire périurbain et un territoire métropolitain avec la ville de Lyon, la métropole de Lyon. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est d'essayer de comprendre comment se développe le processus de démocratisation alimentaire en portant à intérêt la question de la réparation des environnements dégradés. Et à partir de cette notion d'environnement dégradé, c'est deux axes de travail. Un premier qui traite de la question des crises. Alors c'est d'abord été des crises écologiques sur des produits alimentaires spécifiques avec le saumon au Chili, mais c'est plus trop là-dessus que je travaille aujourd'hui. Et c'est plutôt sur les crises alimentaires qui sont liées à l'insécurité alimentaire, qui se sont beaucoup développées, vous le savez, depuis la crise Covid, en tous les cas, qui se sont développées et qui ont rendu les phonèmes plus visibles aussi, parce que je pense qu'ils étaient là avant, mais qu'on n'était pas, on était en capacité de moins les voir. Ça, c'est le premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est... Alors ici, quand même, on travaille entre autres avec Stéphanie Verfey, ici présente, pour la chaire, transition alimentaire. C'est un projet de recherche qui s'intitule, j'arrive jamais à le dire du premier coup, tester l'autonomie économique alimentaire des étudiants face à la question de la précarité. Et donc là, c'est un programme de recherche qui est portée donc par deux laboratoires de recherche, surtout Coactis et Stéphanie Verfait qui en est la responsable, et d'autres collègues de Coactis, et moi en tant que sociologue. Et les partenaires, en fait, c'est l'AGONET, donc qui est l'association locale de la monnaie locale, l'ARDAB, la ville de Lyon, et il m'en manque un. Et la métropole. Bon, voilà, et la métropole. Et là où, du coup, dans ce cadre-là, moi, je travaille toujours un peu sur la même chose, c'est comment les structures d'économie sociale et solidaire favorisent, accompagnent cette question de précarité alimentaire étudiante, comment ils se positionnent sur ces questions-là de façon quand même assez récente pour un certain nombre d'entre elles, pour être en capacité d'en donner une cartographie qui vise quand même à distinguer des formes d'accompagnement sur ces précarités alimentaires par ces structures qui sont un peu différentes, c'est-à-dire je pense que d'un côté, et on y reviendra sans doute peut-être tout à l'heure dans le débat, des structures associatives qui sont dans une aide peut-être caritative et qui sont plutôt dans une aide économique ponctuelle et qui ne sont pas dans un projet politique de transformation de cette aide alimentaire. Alors qu'il y a d'autres structures qui favorisent un travail de réflexion et je pense qu'il y a pas mal de représentants de ce mode d'approche aussi dans la salle. Voilà. Et puis l'autre pilier de mes recherches porte plutôt sur les causes alimentaires. Et là, c'est plutôt l'accompagnement ou la réflexion sur des structures d'économie sociale et solidaire et la manière dont elles participent aux transformations alimentaires, à la fois dans les centres urbains, mais également sur les territoires ruraux. Et qu'est-ce que je peux dire ? Oui, c'est qu'en fait, du coup, sur ces travaux-là, on a pas mal d'étudiants dans la chaire qui travaillent en fait sur ces objets-là et qui nous permettent de développer quand même aussi une force de travail qui est importante par des enquêtes collectives, entre autres, et qui me semble importante à signaler pour s'il y avait des partenaires qui ont envie de travailler avec nous. Et dans ce cadre-là, oui, je commence de nouveaux terrains, entre autres sur les tiers-lieux nourriciers, et entre autres un travail d'accompagnement sur une ferme qui est dans la Drôme, qui s'appelle Les Volonteux, et qui est un peu une ferme idéale typique, on va dire, un peu comme la ferme de la Martinière. Voilà. Donc voilà, des idées, des points à creuser, sans doute, à échanger avec vous tout à l'heure. Et je vais laisser la parole à Claire, donc Lamine, qui est, je le disais tout à l'heure, donc sociologue qui travaille à l'INRAE, et qui va échanger avec nous sur la question de la mobilisation donc des acteurs et des transitions alimentaires, qui est un de ses objets de recherche. Voilà.
Merci, ça marche ? Bon, bonjour, bonsoir à tous. Alors d'abord, merci de m'avoir invité dans ce lieu magnifique que je découvre. Merci à Béatrice et à Maxime. Ensuite, une petite précision. Effectivement, je travaille à l'INRAE d'Avignon, mais je suis accueillie dans un laboratoire rural qui se situe en Ardèche. Donc, vous avez l'Ardèche Connection, là, on est 2/4 quand même, hein, et qui dépend de l'université de Grenoble-Alpes, et qui est vraiment voilà, un lieu particulier puisqu'on est sur un territoire rural très en prise avec les thématiques de ce territoire et que c'est un espace du coup d'expérimentation assez intéressant. Alors la deuxième petit préalable que je voulais faire, c'est que je vais essayer de ne pas parler plus de 20 minutes parce que je ne vois pas pourquoi en tant que chercheuse j'aurais à parler plus que les autres et que mes connaissances entre guillemets voudraient plus que celles des autres. Donc j'espère qu'on arrivera à avoir vraiment un temps d'échange aussi avec vous tous. Bon, pour me présenter très rapidement, parler de mes travaux, mais vraiment vite, j'ai commencé, j'ai travaillé dans le développement local, ensuite j'ai tenu un restaurant, j'ai fait divers métiers, puis je me suis reconvertie en faisant une thèse, donc vers la recherche, en travaillant d'abord sur les consommateurs bio, il y a une vingtaine d'années, donc les trajectoires de mangeurs bio. À ce moment-là émergeaient les AMAP, j'étais dans la région de Marseille, donc j'ai beaucoup travaillé sur cette effervescence qui qui était à l'œuvre autour des AMAP à cette époque-là. Et puis, quand j'ai été recrutée à l'INRA, l'INRA, c'était quand même, ça a changé de nom, je ne sais même pas le nouveau nom, mais bon, c'était l'Institut National de Recherche Agronomique. Donc, j'ai été recrutée pour travailler sur l'agriculture, et en particulier, mais ça a été un challenge finalement assez intéressant, sur l'agriculture plutôt conventionnelle, alors que j'avais travaillé plutôt sur les réseaux alternatifs et les agriculteurs bio, alternatifs, etc. Donc, je me suis mise à travailler sur... les céréaliers du bassin parisien, par exemple, et comment ils pouvaient ou ne pouvaient pas réduire leurs intrants, et donc à adopter des approches à la fois critiques et systémiques pour montrer en fait comment ces agriculteurs étaient pris dans des systèmes d'interdépendance qui limitaient fortement leur trajectoire possible. Ensuite, bon, on m'a quand même pas interdit de travailler ni sur la bio ni sur les systèmes alternatifs. On est au contraire, hein, on est clair, et j'ai continué à travailler là-dessus et à développer effectivement des approches plutôt systémiques, maintenant plutôt à l'échelle territoriale, c'est ça dont je vais parler d'un côté, puis de l'autre côté je travaille beaucoup sur les politiques publiques dans différents pays autour de l'agroécologie et des questions alimentaires. Alors, pour commencer, je proposerai d'abord de faire un petit peu de discussion terminologique autour du titre de la séance, la mobilisation des acteurs dans les transitions alimentaires, parce que ça pose plein de questions, en fait, comment on définit ces termes-là. Je commencerai par là. Ensuite, je voudrais essentiellement, en fait, vous parler d'une expérience concrète, qui est un projet de recherche-action que j'ai coordonné avec d'autres acteurs ces dernières années en Ardèche, en Sud-Ardèche, et qui continue. Et puis, bon, je finirai par quelques éléments un peu transversaux sur, justement, les questions de mobilisation des acteurs. Alors, d'abord, la transition alimentaire, c'est intéressant parce que c'est un terme qui est assez récent. Enfin, c'est assez récemment qu'on s'est mis à employer ce terme-là. Avant, on parlait surtout de transition nutritionnelle. En fait, ça définissait plutôt comment les régimes alimentaires, par exemple dans les pays du Sud ou plus pauvres, rejoignaient ceux du Nord, et puis comment, du coup, ça générait des effets en termes de santé des populations, de maladies cardiovasculaires et compagnie. Le terme de transition alimentaire s'est répandu depuis une dizaine d'années, évidemment un peu en continuité et par analogie avec les notions de transition écologique ou énergétique, par exemple. Alors, moi, personnellement, je préfère parler de transition des systèmes alimentaire, et même je préfère parler de système agri-alimentaire, ça c'est un petit peu mon obsession, mais enfin elle n'est pas si arc-boutée que ça, mais pour dire que je trouve ça important avec ce terme, en fait, de vraiment mentionner l'enjeu d'articulation entre l'agriculture et l'alimentation, et de mettre ça en avant. J'aborde ces questions-là au travers de la question qui est très centrale dans mes travaux, de l'écologisation de ces systèmes alimentaires, c'est-à-dire l'écologisation ou la non-écologisation d'ailleurs, hein, mais en tout cas ce qui m'intéresse, c'est d'analyser au fil du temps ce qui va favoriser ou pas une transition de ces systèmes vers des modèles, que ce soit du côté de la production ou de la consommation, et entre les deux, plus écologiques. Et puis, j'ai pas encore critiqué le thème de transition, mais je peux aussi. je préfère personnellement, même si je l'emploie beaucoup, hein, enfin, en tout cas, je trouve que ça mérite toujours de s'interroger si on parle de transition ou de transformation. Puisque le terme de transition suggère un peu qu'on a une visée, un état désiré qu'on voudrait atteindre, alors que, d'une part, moi, en tant que chercheur, j'observe ce qui se produit et que ce sont plutôt des transformations, c'est pas forcément des transitions, mais surtout, par ailleurs, qu'on ne connaît pas forcément quel serait l'état idéal et que le chemin se dessine au fur et à mesure. Voilà. Donc j'ai tendance à préférer ce terme-là, même si j'emploie tant et plus, comme tout le monde, le terme de transition. Hein. Et puis, dernier point là-dessus, c'est que le terme de transition alimentaire, alors il y en a un autre qui fait florès en ce moment, c'est celui de résilience alimentaire. J'ai d'ailleurs écrit avec une collègue écologue un papier là-dessus, qui a complètement en France supplanté celui d'alimentation durable, qui était le terme un peu comment dire, à la fois un peu institutionnelle, et un, voilà, qui circulait il y a 10-15 ans, qui pose beaucoup, beaucoup de questions, pour le coup conceptuelles, mais voilà, bon, c'est dit au passage. Ensuite, la question de la mobilisation des acteurs qui nous occupe aujourd'hui. Alors, les acteurs, déjà, dans nos questions de transition ou transformation des systèmes alimentaires ou agréalimentaires, les acteurs sont très divers, comme l'a dit Béatrice, à la fois au plan de leur position, de leur rôle dans le système alimentaire. Donc, si on considère que... si on le prend un peu comme un système autour de l'approvisionnement, donc de la production, la collecte, la transformation, la distribution, les consommateurs, mais aussi, moi j'y inclus vraiment les politiques publiques bien sûr, mais aussi la société civile qui, on va le voir aujourd'hui, joue un rôle important là-dedans, et puis la recherche qui peut être un acteur, alors, c'est pas le cas partout, mais dans certains territoires et puis à des échelles nationales ou internationales importants. Alors, ils sont non seulement divers par rapport à ces positions, par rapport à la question alimentaire, mais aussi par rapport aux thématiques que devrait raccrocher l'alimentation. Tout à l'heure, l'un de vous deux parliait de silos. Effectivement, l'alimentation institutionnellement en France a toujours été raccrochée au ministère de l'Agriculture, en gros, et la nutrition. L'approche santé au ministère de la Santé, donc déconnecté. Les évolutions institutionnelles, alors en particulier autour d'instruments d'action publique tels que les projets alimentaires territoriaux dont tu parleras, Émilie, moi j'en parlerai pas trop, visent à mettre ensemble, à articuler différentes thématiques, donc à faire de l'intersectorialité entre des questions agricoles, alimentaires, sociales, de santé, etc. Bon, comme l'a suggéré Béatrice aussi. Et puis, diversité au sens aussi des rapports de force, c'est-à-dire de la capacité qu'ont ou non les acteurs, enfin certains acteurs, à s'exprimer et à prendre part dans ces transitions. Donc toutes ces questions d'inégalité, d'inclusion et de qui on met autour de la table quand on traite de ces questions-là. Ces acteurs, ils sont non seulement divers dans leur position, enfin leur métier, la thématique à travers laquelle ils abordent, enfin ils partagent autour de l'alimentation, de l'agriculture, mais aussi de leur vision. On a une grande diversité de visions de ce qu'est la bonne agriculture, la bonne alimentation, la bonne articulation entre les deux. Ce sont des sujets très controversés. On le voit avec le foisonnement aussi de modèles, de paradigmes. Alors en ce moment, par exemple, les débats entre intensification écologique, agriculture, comment on dit, climate smart agriculture, agriculture climatique, enfin agroécologie, souveraineté alimentaire, etc. Donc on a une recomposition permanente de ces controverses et des rapports aussi, des modes d'appropriation par différents réseaux, par les politiques aussi publiques de ces différents modèles. Et ces visions différentes vont porter donc à la fois sur l'agriculture, le type d'agriculture, mais aussi sur le type de circuit. Hein. On a parlé des circuits de proximité, des réseaux alternatifs. Et quand on parle de circuits de proximité ou alternatifs, est-ce que justement on raisonne en termes de proximité ou d'équité ? Enfin bon, voilà, toutes ces questions font que on a une très grande diversité des visions dont je considère, et c'est un peu ce que je vais vous montrer à partir de l'exemple concret, qu'une première étape absolument indispensable est de pouvoir les identifier un minimum et les mettre en partage, c'est-à-dire prendre conscience collectivement de cette diversité. Le terme de mobilisation, alors, est intéressant parce que c'est la mobilisation des acteurs à la fois au sens de leur inclusion, leur implication, mais aussi au sens le sion, c'est-à-dire la démarche qu'on met en œuvre pour les inclure, les repérer, etc. Donc c'est un peu ça dont je vais vous parler à partir d'un exemple concret. qui est donc un projet de recherche-action qui vient de se terminer, même si la dynamique continue, alors qui s'appelle l'assiette et le territoire. Si sur Google vous tapez assiette territoire, vous tombez direct dessus, on est top au niveau référencement. Je ne sais pas pourquoi, parce que je suis nulle personnellement, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de gens qui ont eu l'idée de s'appeler l'assiette et le territoire, ou d'associer les deux mots, en fait. Voilà. Donc c'est un projet de recherche-action qui a été mûri, en fait, pendant pas mal d'années avant, d'ailleurs, qu'on a soumis trois fois au même appel à projet de la Fondation de France sur les transitions agroécologiques avant d'être enfin financé. Donc comme quoi, ce n'était pas forcément non plus le projet voilà, typique qui rentre bien dans les canons des appels à projet. Qui était porté par cinq acteurs, cinq porteurs, disons, principaux. Donc la recherche, l'INRAE, deux réseaux associatifs, Pétale 07, qui en Ardèche est une fédération d'associations qui travaillent sur l'éducation à l'environnement et à l'alimentation, donc c'est plutôt un collectif d'associations. Les CIVAM, que vous devez connaître, donc un réseau d'agriculture et de développement rural. Et puis deux collectivités territoriales, le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche et le Pays de l'Ardèche méridionale, qui correspondait, alors qui est une structure maintenant qui a été un peu vidée de sa substance du fait des recompositions politiques récentes, mais qui correspondait à notre échelle de travail, celle du sud Ardèche. Et ce projet, en fait, visait vraiment à développer alors une recherche-action, c'est-à-dire un dispositif à la fois de production collective de connaissances, mais aussi d'expérimentation collective autour de la transition agroécologique du système agri-alimentaire. On l'avait cadré comme ça. Et donc, je vais essayer de vous raconter très concrètement comment on s'y est pris. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dès le départ constitué un groupe qu'on a appelé un groupe plénier, donc un groupe d'environ 25 personnes, avec une démarche de composition qui a été assez laborieuse et assez longue, puisque on avait plusieurs principes. Comme je vous disais tout à l'heure, déjà le principe d'associer les différents maillons de ce système, les différentes thématiques. Et puis un autre principe qui était vraiment important, c'était de ne pas avoir que ce qu'on appelle des porteurs d'enjeux. Moi, j'appelle ça des acteurs mandatés, c'est-à-dire des gens qui sont envoyés par une structure pour la représenter, que la structure soit associative, économique, privée, publique, enfin, voilà. Et donc, on avait un souci d'équilibre dans ce groupe entre... parce qu'il en faut quand même des acteurs mandatés, c'est quand même eux ensuite qui ont des sous, qui prennent des décisions, etc. Mais d'avoir un équilibre entre ces acteurs mandatés et puis des acteurs des acteurs concernés, sans être forcément membre d'une structure donnée, et à la fois au plan des agriculteurs, des consommateurs, commerçants, restaurateurs du territoire, ou élus vraiment de base, par exemple, conseils municipaux de base, et pas... Donc ça a été tout un travail où on demandait aux gens, même ceux qui étaient mandatés, de s'engager sur l'ensemble de la démarche. Donc c'était censé durer un peu plus de 2 ans sur un certain nombre de rencontres, d'être là, comme on dit, intuitif personnel, enfin à titre personnel, de s'engager à contribuer à cette démarche. À partir de là, en fait, on a défini chemin faisant au fil des... Donc, il y a eu 4 journées de travail de ce groupe plénier. On a défini les thématiques de travail. Alors, la première qu'on a définie, qui avait été proposée dans le projet, c'était de construire collectivement une analyse de la trajectoire de notre système alimentaire territorial. Donc, le truc un peu classique, on est parti d'une frise chronologique avec une démarche de construction participative où les gens ont dit quels étaient pour eux les points de basculement qui avaient été importants, les initiatives qui avaient fait date, les programmes publics aussi qui avaient été qui avaient fait levier, qui avaient été importants dans cette trajectoire. Et puis ensuite, on a vraiment créé un sous-groupe de travail sur cette question-là, en associant d'ailleurs 2-3 autres acteurs qui étaient vraiment des historiques, qui avaient ce point de vue rétrospectif, historique sur cette trajectoire, pour travailler plus finement sur l'argumentation à une période périodisation de cette trajectoire qui pouvait constituer un récit partagé, quoi, réflexif, qu'on a évidemment revalidé avec le groupe Plénier, etc. De la même manière, on a créé deux autres groupes de travail très très concrets qui visaient à lancer un peu des expérimentations ou des rencontres. Donc l'un sur l'alimentation durable, alors on appelait encore ça alimentation durable, tiens d'ailleurs, qui a organisé pas mal d'échanges avec d'autres territoires. C'était aussi un des enjeux du projet, du collectif, de se mettre en lien avec d'autres territoires et d'organiser des échanges en direct, qui a organisé une rencontre sur la restauration collective où là il s'agissait de mettre ensemble des agriculteurs, alors là d'un plus petit territoire encore, des élus, des enseignants, des parents d'élèves et d'échanger sur les initiatives d'école. Bon, c'était surtout sur la restauration communale qui avait réussi à changer un peu de modèle par rapport au Sodexo, Happy chez nous et compagnie. Et puis d'autres initiatives comme ça. Et puis un groupe sur la question de l'installation agricole et du maraîchage qui, comme dans plein de territoires... Alors, je vous parle d'un territoire rural, hein, vous avez bien compris, enfin plutôt rural. On a une ville au milieu, un bassin urbain de 50 000 habitants, mais c'est quand même assez rural. Sur notre territoire comme ailleurs, et même en milieu rural, on a un gros déficit de production de légumes d'un côté. De l'autre côté, une forte... attractivité pour des porteurs de projets qui justement ont envie de s'installer sur des systèmes plutôt diversifiés, plutôt en maraîchage, pas que, mais beaucoup, et plutôt sur des circuits courts, etc. Donc c'est un enjeu sur lequel je pense que tu reviendras aussi par rapport à ton territoire. Et là-dessus, on a fait par exemple un atelier de co-conception chez un arboriculteur, donc quelqu'un qui faisait pas de légumes dans l'idée d'une transition vers ça. On a fait tout un... Il y avait déjà eu sur le territoire des travaux antérieurs sur les espaces tests et on a relancé c'est un peu cette dynamique-là, donc des espaces tests agricoles, qui sont des espaces mis à disposition de porteurs de projets, avec tout un accompagnement technique et de montage de projets. Voilà, grosso modo, je ne vais pas être beaucoup plus longue là-dessus. Et on a fini en fait par organiser, donc au bout de deux ans, donc l'ensemble de tout ça, ça a quand même brassé pas mal de dizaines de personnes. On a organisé un forum en lien avec le parc naturel régional qui, de son côté, avait aussi porté une démarche de prospective alimentaire, donc animée par un bureau d'études qui, là, était à échelle plus petite des communautés de communes, alors que nous, on était à l'échelle d'une douzaine de communautés de communes, hein, beaucoup plus large, c'était la moitié du département. Et donc, qui avait travaillé sur de la prospective à ces échelles communautés de communes, travail qui a été fort mobilisé ensuite dans des montages de projets alimentaires territoriaux, puisque ceci se passe surtout à cette échelle-là, en fait. Donc, on a fait un forum qui, là, a rassemblé une centaine de personnes avec des ateliers sur ces différents thèmes. On a aussi construit un jeu participatif assez intéressant, enfin, qui marche assez bien. Ouais, sur on appelle l'impact territorial de l'assiette. On aime bien le mot assiette, hein. Territoire aussi. qui en fait, c'est un jeu avec des cartes qui se jouent à une dizaine. Et l'idée, c'est que les gens, il y a des cartes qui décrivent le système alimentaire territorial et que les gens, il y a des cartes sur les pratiques alimentaires ou agricoles et les gens doivent en fait argumenter sur quel impact des pratiques justement sur les caractéristiques du système alimentaire. Et en fait, il y a deux équipes et c'est assez, ça marche assez bien pour faire argumenter les gens sur les effets d'interdépendance, de coordination, les possibilités de changement, etc. Et donc les suites de ce projet, c'est qu'on est en train de monter un conseil local de l'alimentation. Donc l'idée, c'est que ce groupe Plénier, qui a quand même prouvé son bon fonctionnement, enfin le fait de ne pas être inféodé à une collectivité territoriale, de ne plus être sur une échelle d'action publique, donc une certaine liberté par rapport à ça, tout en associant les politiques publiques et les acteurs publics. Donc ça se transforme en conseil local de l'alimentation avec des petits aménagements parce qu'il nous manquait certains types de profils, qu'il y a aussi des gens qui sont, quelques personnes qui sont parties. Et puis il y a deux suites très concrètes qui sont en lien aussi avec le CLA, une thèse de sociologie donc, qui sera au parc, enfin co-encadrée entre le PNR et moi, l'INRA, sur ces questions de gouvernance alimentaire et de mobilisation des acteurs. Et puis un projet qu'on est en train de monter autour de l'installation agricole et d'enjeux plus agricoles et d'agronomie aussi. Voilà, et donc pour conclure, Je voulais simplement finir à partir de cette expérience. Bon, je vous en passe d'autres. On est aussi un réseau qui travaillons sur différents territoires. Sur ce qui me semble être des enseignements un peu, comment dire, qui peuvent être utiles sur ces questions de mobilisation des acteurs. Donc un premier aspect. Parce que dans une vision un peu classique, alors si on revient aux projets alimentaires territoriaux par exemple, dans une vision un peu classique des projets publics, mais même des projets en général, on a un porteur de projet, donc par exemple une collectivité territoriale, qui va définir les visées d'un projet et puis un programme d'action qui est lié à ce projet. Et ce programme d'action va permettre de financer des actions portées par d'autres éventuellement. Avec l'injonction assez générale à la participation qui est présente dans tous les appels à projets de manière croissante, en particulier dans les appels à projets publics, ces porteurs de projets, que ce soit collectivités territoriales ou autres, sont enjoints de créer une instance participative. Grosso modo, je caricature un peu, mais bon, c'est quasi obligatoire. Donc, on va appeler ça, je ne sais pas, peu importe, comité participatif. Moi, de manière générique, j'appelle ça une arène de débat. Mais en fait, tout ça, ça ne se passe pas dans un monde vierge. C'est-à-dire que ce projet, il est monté dans un territoire où, en réalité, il y a tout un tas d'actions, de porteurs d'actions, d'acteurs associatifs, privés, etc., qui portent des actions qui ne sont pas incluses dans le programme d'action en question. Forcément, enfin, un programme ne peut pas tout inclure. Donc, du coup, la question qui se pose, et puis, pareil, dans l'arène de débat, il n'y aura qu'une partie des acteurs qui sont... Donc, la question que moi, je pose dans mes travaux, c'est à la fois celle de qui on met ou qui on ne met pas dans ces arènes de débat, et puis comment on voit l'articulation entre ces arènes de débat et ce que j'appelle les espaces d'expérimentation ou d'action au sens large, c'est-à-dire un peu la diversité de ce qui se passe sur le territoire. Donc déjà, un des premiers principes importants dans la composition des arènes de débat et qui découle de ça, c'est qu'aux côtés des porteurs d'enjeux, donc ce que j'appelle les acteurs mandatés, c'est important d'avoir des acteurs porteurs d'initiatives concrètes, même s'ils ne représentent pas une structure, justement, qu'ils incarnent ce côté-là sans être ni décideurs, ni représentant une structure, etc. Un autre aspect important, c'est ce que j'ai un peu essayé de vous montrer, c'est aussi de tenir compte de cette diversité des visions. Donc ça, nous, on avait fait des entretiens préalables avec tous les participants, il y avait vraiment cette importance de ne pas avoir une espèce d'homogénéité de vision, soit très côté bio, soit tricoté, et donc de faire ce travail de mise en partage des visions qu'on a fait, par exemple, nous, on l'a fait de manière un peu ludique au premier atelier. On a demandé aux gens de venir avec un objet qui, pour eux, symbolisait leur attachement au territoire et la manière dont ils voyaient ces questions-là, et de s'exprimer sur qu'est-ce que... Et voilà, c'était une manière très simple. Donc, alors, certains étaient venus avec une pince à sucre du 19e siècle, avec un tire-bouchon, avec une châtaigne, mais voilà, c'était une manière de mettre en partage les visions qui ne suffit pas, loin de là, on est d'accord, mais qui permet de rentrer dans un principe un peu de mise en partage. Voilà, en gros. Et puis le dernier principe, c'est celui... j'ai appelé ça expérimentation collective, mais c'est pas que expérimenter ensemble des choses, essayer de monter des petites actions. Ce qu'on a fait, c'était très très modeste parce qu'on avait un financement rikiki, mais c'est non seulement d'expérimenter, mais aussi ce que James Dewey appelle l'enquête collective, c'est-à-dire de collectivement se dire qu'est-ce que ça donne ce qu'on fait, s'interroger collectivement sur ce que performe, ce que produit, ce que génère, ce qu'on a fait ensemble, quoi. Donc ce côté réflexivité collective aussi. Voilà, et tout ça, alors tu parlais des échanges Nord-Sud, du coup je fais une petite pub pour un réseau international que je coordonne qui s'appelle ATER, alors ça veut dire transition agroécologique à l'échelle territoriale, en anglais, et qui est un réseau Nord-Sud, justement, qui regroupe pas mal de pays. C'est un réseau d'échange sur les mêmes questions, donc avec un peu le même type de principe d'analyser des trajectoires, de monter des recherches actions, etc., autour de 16 cas d'études, donc 16 territoires dans 5 pays, et qui se fondent sur des mobilités. C'est pour ça que j'en parle, parce que du coup on a beaucoup de chercheurs étrangers qui viennent en mobilité, donc ça peut être intéressant à l'occasion, si ça vous intéresse, d'inviter l'un ou l'autre dans vos rencontres. Voilà, et je n'ai pas parlé plus de 20 minutes, enfin peut-être un chouïa plus, mais pas beaucoup plus, je pense. Donc je passe la parole à Émilie. Allez.
Comment on survit sans pâtes ? Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Alors, j'ai beaucoup de questions dans tes questions, Béatrice. Je vais commencer déjà par me présenter très brièvement. Et je ne devrais pas parler 20 minutes. Je devrais parler... Mais parce que je préfère rebondir sur toutes les questions que vous aurez sur la thématique. Ce sera pour moi beaucoup plus simple que de faire un grand monologue sur le sujet du PAT. Sinon, je vais tous vous perdre. Voilà. Émilie Juan, je suis chargée de mission agriculture, alimentation et forêt pour la communauté d'agglomération de Privas-Centre-Ardèche. Donc je suis un petit peu plus au nord du territoire qui vous a été présenté précédemment.
Mais moi, j'habite dans la commune plus au nord, en fait, proche de Privas.
Et oui, tu es effectivement d'arbre est collé à la CAPCA, ce qu'on appelle. Je vais parler de la CAPCA, c'est le diminutif de la communauté d'agglomération de Privas-Centre-Ardèche. Donc ce territoire, il est né de trois fusions successives de PCI, donc d'établissements publics, donc de trois fusions de collectivités différentes. La dernière fusion date de 2017 avec les pays de Vernoux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'ai pas de carte, on n'avait pas le droit de projeter quoi que ce soit ce soir. Mais en tout cas, juste pour vous dire du coup que ce territoire est récent quand on raisonne à l'échelle politique. Parce que 2017, on peut se dire, ça fait déjà 5 ans, mais 5 ans à l'échelle politique, en fait, c'est très court. Parce qu'il faut du temps, en fait, pour structurer les politiques publiques. Donc, en fait, c'est un territoire qui est relativement jeune et qui, en plus de ça, ne fait pas grand sens d'un point de vue... alors, comment le dire de façon politiquement correcte, puisque nous sommes enregistrés ce soir. Il n'est pas très cohérent de façon géographique. Effectivement, parce que ce territoire, il est divisé par plusieurs cours d'eau, donc il est fait de plusieurs vallées, entre autres. Il est fait de montagnes, en partie, de plaines, en d'autres parties. Les altitudes vont de 80 mètres à peu près en bordure de vallée du Rhône, on monte jusqu'à 1350 mètres quand on rentre du côté du massif central. Et ça fait qu'en fait, on a du coup plusieurs bassins de vie et plusieurs bassins de consommation sur un territoire unique d'un point de vue administratif. Mais ce qui complexifie énormément ma tâche en tant que chargée de mission sur un projet, puisqu'il n'y a pas réellement de cohérence géographique, économique, etc. Parce que ce sont des bassins de vie, en réalité, qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Donc ces bassins de vie, ils sont très proches géographiquement, mais en réalité, quand on prend les contraintes géographiques et qu'il faut se déplacer en voiture ou autre, mais en Ardèche, on se déplace principalement en voiture, et j'en suis désolée. Mais aujourd'hui, on n'a pas trop d'autres solutions. La mobilité étant un réel enjeu dans les milieux ruraux. Et bien, en fait, pour faire 10 km, on va mettre une demi-heure. Sans bouchon, hein. C'est 10 km sur des routes communales. Donc, ce sont des territoires, en fait, qui communiquent peu, voire des fois pas. Donc, moi, sur mon bassin de vie, j'ai 5 bassins de vie et j'ai des bassins qui communiquent jamais avec d'autres bassins. Donc, j'ai exprimé le fait que la mobilité était un enjeu. Donc, tout à l'heure, Béatrice, tu exprimais le fait qu'on se pose la question de comment on raisonne la production agricole pour pouvoir alimenter des métropoles. Mais en réalité, on a d'autres problématiques en territoire rural. Et la logistique, en fait, on est un énorme. L'approvisionnement en est un énorme. D'un point de vue de l'économie sur le territoire, donc on est un territoire à dominante rurale, il y a 60% de la surface du territoire qui est couvert par des espaces forestiers et 34% par des espaces agricoles. Donc on est vraiment à dominante extra-rurale. Donc il y a la place de la forêt donc, qui est très importante. Et puis donc il n'y a pas une agriculture mais des agricultures liées aux conditions de relief. Parce que quand on cultive dans la vallée du Rhône, on ne cultive pas la même chose que quand on est à 1300 mètres d'altitude. Donc, ce n'est pas une agriculture, mais des agricultures. Et là, on va plutôt avoir sur notre territoire, donc sur le centre Ardèche, des agricultures diversifiées et plutôt sur des produits à forte valeur ajoutée. Pour une raison très simple, c'est-à-dire que du fait du relief, l'agriculture extensive est assez peu possible sur le territoire. Et du coup, les agriculteurs, ils sont plutôt très intelligents. Et ils ont diversifié leurs revenus. Et ils se sont adaptés à leur climat, à leur relief, etc. Donc on va avoir du petit élevage, on va avoir de la vigne, on va avoir donc des produits viticoles, on va avoir de l'arboriculture dans la vallée du Rhône justement, on va avoir un petit peu de céréales, on a une plaine, une plaine de Chaumérac, mais on est très très loin des plaines qu'on peut trouver en Beauce par exemple, ça n'est absolument pas comparable. On a très peu de produits maraîchers, donc Claire tu l'as exprimé, c'est un gros problème, mais ça c'est de façon générale en France, on ne produit étonnamment pas assez de légumes pour nourrir la population. Mais c'est aussi assez complexe à produire, de façon raisonnée. On va avoir tous les produits de la châtaigne, bien sûr, on a énormément de châtaigneraies, je vous ai dit 60% du territoire est couvert par la forêt, et pour le coup, l'Ardèche est connue pour ça. Mais on ne fait pas que de la châtaigne en Ardèche, et toutes les châtaignes transformées par les gros industriels ardéchois ne viennent pas forcément d'Ardèche. Voire même principalement pas d'Ardèche. Donc ne vous faites pas avoir quand vous achetez des produits made in Ardèche. voilà pour une présentation un peu globale du territoire, de façon plus précise, sur le projet alimentaire territorial. Donc, je vais essayer de ne pas parler du coup de transition, mais malheureusement ça fait partie de mon vocabulaire, donc reprends-moi si jamais je dérape. Le projet alimentaire territorial, je ne sais pas si certains connaissent ce dispositif. Oui, tout le monde, pas trop. Non, je vais le décrire de façon assez claire. Alors déjà, on parle de projet alimentaire territorial. Donc pour moi, il y a deux problèmes dans la dénomination. Un, le projet, qui pour moi est une démarche et pas un projet. Si on re-raisonne après en système agri-alimentaire, et donc on parle de projet alimentaire territorial qui vise de façon très globale à amener davantage de résilience agricole et alimentaire sur un territoire. Ça, c'est de façon très macro. De façon plus précise, le projet alimentaire territorial, il est donc porté aujourd'hui par le ministère de l'Agriculture, mais pas que. Il est également porté par donc c'est un appel à projet, qui est donc porté par le ministère de l'Agriculture, porté par le ministère des Solidarités, et également par l'ADEME, donc l'Agence de la Transition écologique. Donc il est porté par ces trois institutions, et de fait, oblige les porteurs, en tout cas les candidats à l'appel à projet, à répondre à différents volets. Ces différents volets, il y en a six, ils sont présentés souvent, si jamais vous renseignez sur le PAT, je vais parler de PAT, projet alimentaire territorial, vous verrez qu'il représente une fleur avec six pétales. Donc ces six pétales consistent en, un, il y a tout un volet urbanisme lié notamment à l'accès au foncier agricole, parce que clairement, pas de foncier, pas de production agricole. Et là, c'est un vrai sujet, dont on entrera peut-être plus dans le détail plus tard dans le débat. Il y a tout un volet environnemental. Donc, comment aujourd'hui et demain, on cultive de façon durable, dans la préservation des ressources. Voilà. Il y a un volet culturel et gastronomique. Comment on met en valeur les produits de terroir. Il y a un volet santé et nutrition. Dès aujourd'hui, en fait, on cultive des produits et on éduque les gens, les consommateurs, de fait, au bien manger. Qu'est-ce qu'on met derrière le bien manger? Qu'est-ce qu'un produit ultra transformé? Quels sont les marqueurs d'ultra transformation? Et toute la sensibilisation qui est liée à l'impact de ce que je mange, à quel point ça va impacter ma santé à court, moyen et long terme. Il y a tout un volet développement économique, donc développement des filières. Là, je ne vais pas entrer dans le détail, je pense que ça parle de lui-même. Et enfin, il y a tout un volet accessibilité sociale, surtout le sujet précarité alimentaire, donc qui a déjà été abordé ici. Et je reviendrai aussi plus tard sur ce sujet, parce que les collectivités, elles ont parfois un peu de difficultés à aborder ce sujet-là. Mais en tout cas, ce sont les six volets à adresser quand on présente, quand on candidate pour un projet alimentaire territorial. Sur le projet alimentaire territorial, je ne sais pas si je vais pas faire plus dans le détail à ce stade. Je pense que ce n'est pas nécessaire. Donc, pourquoi une collectivité s'engage dans une démarche comme celle-ci? Est-ce que c'est un must? Est-ce qu'on peut survivre sans un PAT? Je pense que l'humanité s'est passée des projets alimentaires territoriaux jusqu'à présent. Donc, la réponse pour moi, elle est assez directe. C'est oui, nous pouvons survivre sans un projet alimentaire territorial. Donc, pourquoi les collectivités s'engagent-elles? Mince. Ça y est, on a déjà perdu du monde. Je savais que j'allais vous ennuyer avec le PAT. Pas de problème. Bonne soirée. Donc, les collectivités territoriales s'emparent du sujet parce que... Là, c'est là où, en fait, je vais mettre le micro sur off. Non, je plaisante. Au cas où mon président écoute. Non, parce qu'en fait, c'est un must politique. Aujourd'hui, et encore plus, alors là, ça a été accéléré ces deux dernières années avec la crise qu'on est encore en train de traverser, et la nouvelle qui se présente, d'ailleurs. C'est aujourd'hui, le consommateur, il veut savoir ce qu'il mange. En tout cas, la plupart des consommateurs souhaitent savoir ce qu'ils mangent, souhaitent savoir d'où ça vient. Pendant 2 ans, il y a eu une explosion de l'intérêt pour tous les produits de proximité. Donc moi, je parle très peu de circuit court, à l'inverse, puisque par définition, un circuit court, c'est un circuit dans lequel il n'y a qu'un intermédiaire entre la production et la consommation. Donc en fait, il n'y a pas de notion géographique. Alors que quand on parle de proximité, on parle de proximité géographique. Donc il y a eu une explosion, en tout cas une demande des consommateurs forte pour s'approvisionner de façon locale. Et là, très clairement, de toute façon, le système actuel, il a démontré ses limites. Tout simplement, lors du premier confinement, il y a eu des ruptures dans les linéaires, dans les magasins. Les gens se sont mis en panique, ils vont se dire, on va être en incapacité de manger. Et là, du coup, les politiques se sont dit, ah, panique aussi, comment on va faire pour nourrir les gens? Parce que sinon, on va avoir juste une guerre civile. Donc, le projet alimentaire, à mon sens, le PAT, est un outil à la disposition, entre autres, des collectivités, parce qu'il peut être porté par d'autres structures que des collectivités territoriales. En tout cas, un outil à la disposition des politiques et des collectivités pour raisonner une forme d'autonomie alimentaire. Donc là, c'est pareil, on pourra rentrer dans le détail. Qu'est-ce que ça veut dire, l'autonomie alimentaire? Est-ce que raisonner, justement, la véritable autonomie alimentaire en se disant, moi, aujourd'hui, je raisonne à l'échelle de mon territoire et je ferme mes frontières et je vais produire que ce que consomment mes consommateurs. Et puis on ne va rien importer, et puis on ne va rien exporter. Est-ce que ça fait du sens dans un monde globalisé comme le nôtre et mondialisé comme le nôtre? J'en doute. Donc raisonner le système alimentaire à l'échelle ultra-locale ne fait pas de sens. Et c'est là où on va se reposer, pour le coup, en tout cas pour ma collectivité, on va se reposer sur nos territoires voisins, entre autres, parce que ne serait-ce que raisonner à l'échelle départementale, ce serait pas mal, et même raisonner à l'échelle nationale, de se dire que tous les produits qui peuvent être produits en France, s'ils pouvaient être consommés en France, ce serait pas mal. Mais on ne va pas remettre en question, enfin on va la remettre en question. On peut raisonner de façon utopique sur toutes les politiques, notamment la PAC, la politique agricole commune, qui a amené le système alimentaire tel qu'il est aujourd'hui. Donc, en tout cas, qu'est-ce qui a amené mon territoire à s'intéresser à ces sujets-là? C'est plusieurs enjeux. Le premier des enjeux, ça a été le maintien de l'activité agricole. C'est-à-dire que sur le territoire, on a perdu 564 exploitations en 30 ans, donc il n'en reste plus que 300. Donc ça vous laisse une idée d'à quel point on a perdu le nombre d'exploitants agricoles sur le territoire, mais ça, en fait, ces données-là, c'est de façon générale en France. Il y a de moins en moins d'exploitations agricoles et il y a une tendance à la concentration, c'est-à-dire que les exploitations sont de plus en plus grandes. Donc, le territoire s'est questionné sur comment je peux... Il y a plein de porteurs de projets, tu l'as exprimé clair, il y a plein de gens qui aimeraient s'installer et qu'on n'arrive pas à installer. Donc là, il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'on manque d'exploitants agricoles, de l'autre côté, il y en a qui veulent s'installer, ils n'arrivent pas à s'installer. On va revenir après sur le sujet du foncier agricole, l'accès au foncier. Un autre enjeu, c'est la préservation des ressources. On peut le nier, en tout cas, il y a des faits qui aujourd'hui démontrent que nous avons quelques petits soucis d'accès à la ressource en eau. En Ardèche, c'est un vrai problème. Ardèche, on a un climat de plus en plus méridional, de plus en plus sec. Les cours d'eau en période d'étiage, qui est donc la période où les cours d'eau sont les plus bas, ben, ils sont tout simplement à sec. Donc c'est un vrai problème là pour les politiques publiques, parce que je vous disais, si on manque de quoi manger, on va avoir un problème, mais si on manque de quoi boire, on va avoir un problème, parce qu'on ne va pas pouvoir cultiver, on ne va pas pouvoir manger. Donc il y a un problème de la préservation de la ressource, en eau, mais pas que. En eau, dans sa qualité et dans sa quantité. Là, je vous ai parlé de la quantité, quand les cours d'eau sont à sec, c'est problématique. Et en qualité, par rapport aux produits, aux tous les intrants chimiques qu'on peut utiliser dans l'agriculture dite conventionnelle. Ensuite, il y a tous les aspects, donc là-dedans, on va rentrer donc tous les aspects adaptation au changement climatique. Enfin, il y a un enjeu d'accessibilité sociale, parce qu'aujourd'hui, il y a un Français sur cinq qui ne mange pas à sa faim en France, qui n'a pas de quoi s'acheter 3 repas par jour. Donc, il n'y a pas besoin d'aller très loin à l'étranger pour se dire qu'on a des problèmes d'accès à l'alimentation en France, un accès digne à l'alimentation. Et enfin, il y a des enjeux de consommation responsable. Parce que les politiques, ils pourront faire ce qu'ils veulent, les industriels, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Le fait est que si le consommateur, il n'est pas inclus dans l'ensemble de ces démarches-là, je pense que tout ça ne fait pas de sens. Il est quand même le premier concerné. Ensuite, il y a les... Pourquoi ? Je reviens sur le fait donc, de pourquoi une collectivité souhaiterait porter un projet alimentaire territorial. Donc c'est pour faire face à l'ensemble de ces enjeux. Et en face, on a des missions. Notamment une PCI, elle a plusieurs missions. Elle a notamment une grande mission sociale, au travers de ce qu'on appelle les centres communaux ou centres intercommunaux d'action sociale. Elle a des missions relatives à l'eau, sur tout ce qui est assainissement, sur les eaux pluviales, sur la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations. Elle a des missions relatives à la culture, donc sur la promotion, par exemple, des produits alimentaires, des produits de terroir. Elle a des missions sur tout ce qui est vie associative, sur le sport, sur la gestion, la valorisation des déchets. Ça va rentrer dans le volet environnemental du PAT, comment on limite le gaspillage alimentaire. Des missions sur tout ce qui est mobilité, environnement, donc ça j'en ai parlé, et relations avec les autres territoires. Et enfin, bien sûr, des missions de développement économique. Mon Dieu, j'ai oublié le principal. Des missions de développement économique. Donc, la collectivité, en fait, elle touche un peu à tout. Et elle peut facilement aller mobiliser, j'ai presque envie de dire, presque tous les acteurs, quel que soit leur statut, de l'associatif à l'institutionnel. Donc, à mon sens, en tout cas, pour porter un projet alimentaire territorial, la collectivité me semble être la bonne échelle, en tout cas le bon porteur de projet. Voilà. Et enfin, pourquoi un PAT en Centre Ardèche ? Parce que le Centre Ardèche s'intéresse à des aspects environnementaux depuis déjà un certain nombre d'années. Il y a notamment territoire TEPOS, donc c'est territoire à énergie positive. Il mène depuis peu ce qu'on appelle un PCAET, donc c'est un plan climat air énergie territorial. Il y a également à l'échelle du département ce qu'on appelle un CTE, donc c'est un contrat de transition énergétique et écologique. Pardon, tu viens de me reprendre. Et donc l'agriculture, elle a nécessairement un impact dans la façon dont on produit sur l'environnement. On a également un SCOT à l'échelle interterritoriale, donc là avec d'autres territoires voisins. Donc un SCOT, c'est un schéma de cohérence territoriale. Là, je vous parle souvent sûrement chinois. En tout cas, c'est tout un tas de dispositifs. Il y a bien sûr le parc naturel dont tu as parlé, qui est un énorme acteur en Ardèche. Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, qui porte justement, donc qui coporte l'assiette des territoires et le futur CLA. Donc voilà, il y a tout un tas de dispositifs politiques qui sont présents. Et donc ça faisait, à notre sens, pleinement sens que le Centre Ardèche s'engage dans cette démarche-là de projet alimentaire territorial en lien avec les territoires voisins qui se sont engagés un peu avant nous sur ces thématiques-là pour qu'on raisonne le système alimentaire, le système agri-alimentaire à une échelle en tout cas qui fait du sens. Et là-dessus, par exemple, je vais donner un exemple très concret. Quand on va commencer à raisonner des systèmes de transport et de logistique ou des systèmes de transformation, on va raisonner... Alors, je suis désolée, je vais parler d'un abattoir, parce que c'est important, en Ardèche. Voilà, il y a beaucoup d'élevage. Quand on raisonne un outil tel un abattoir, qui va peut-être coûter 10 millions d'euros à la collectivité, ça ne ferait absolument aucun sens de le raisonner à l'échelle ultralocale. Et en plus de ça, si le Centre Ardèche décidait demain de déployer un abattoir, ça aurait forcément un impact sur les abattoirs existants sur les territoires voisins. Et donc, en fait, on viendrait perturber l'économie et toute la filière. Donc, on parle beaucoup avec nos territoires voisins. Se pose à présent la question de la gouvernance de cette démarche-là. Donc sur le projet, sur le papier, effectivement, Claire, tu avais raison, il nous est demandé de travailler conjointement avec tout un tas d'acteurs. Et je dis de l'association à l'institutionnel. Ça, c'est ce qui est demandé sur papier. Après, se posent des questions très concrètes. Et moi, aujourd'hui, comme l'a dit Béatrice, le projet alimentaire territorial de Centre Ardèche, il est en phase émergente. Donc, je suis en train de m'arracher les cheveux pour avoir une gouvernance qui fasse du sens, pour pouvoir donner la parole à tous, à l'ensemble des acteurs en lien avec le système agricole et alimentaire. Et vous l'aurez compris, on va de l'association de consommateurs à toute l'économie sociale et solidaire, aux EHPAD, à la Chambre d'agriculture, au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, à la CMA, donc la Chambre des métiers et de l'artisanat, à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie. Donc en fait, on touche tout plein d'acteurs, plus j'oublie bien sûr toute la distribution, toute la transformation, donc toute la grande distribution, à des acteurs à ne surtout pas exclure d'un projet alimentaire territorial pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, entre 80 et 85% des achats alimentaires en France sont réalisés en ce qu'on appelle en GMS. Donc il pourrait être très utopique, en tout cas en 2022, de se dire « moi je ne veux plus faire affaire avec ces acteurs-là, toujours est-il que demain on ne fait plus affaire avec ces acteurs-là, les gens ne mangent plus en France ». Donc ce sont des acteurs à inclure intelligemment dans la démarche pour voir comment on peut créer des ponts et faire des liens intelligents. Voilà, sur la mobilisation des acteurs, je ne vais pas en dire beaucoup plus à ce stade, mais je pourrais vous donner davantage de détails sur la difficulté pour une collectivité qui pourtant est en lien avec l'ensemble de ses acteurs de façon quotidienne, pour pouvoir les rassembler autour d'un projet commun. Mais pour autant, ces derniers, ils peuvent avoir potentiellement des intérêts divergents. Si demain, je mets la GMS autour de la table avec des magasins de producteurs, avec ou tout autre d'ailleurs système alternatif, ils n'ont pas forcément des intérêts divergents. Donc toute l'intelligence collective va être de réussir à se dire ok, quel est notre point commun pour qu'on avance ensemble sur la thématique qui est la nôtre, qui est donc de pouvoir atteindre davantage de résilience agricole et alimentaire sur le territoire pour un système agricole et alimentaire pérenne. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on peut juste se faire le constat que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ce n'est pas pérenne. Je ne sais pas si ça répond aux questions, mais je vais passer la parole à Samuel, qui lui...
Je vais prendre la parole, alors là, on change de registre. On est d'abord sur un autre territoire, alors on peut toujours habiter quand même ce soir.
Désolé.
Voilà, peut-être juste de commencer par présenter en fait la ferme et comment dans une démarche socio-historique on en arrive à un tiers-lieu nourricier aujourd'hui en 2022. Voilà, quelles ont été les étapes qui permettent de comprendre et là aussi c'est bien évidemment une question de gouvernance, c'est-à-dire comment la question de la gouvernance change quand elle est saisie du point de vue de l'acteur agricole et quel maillage il construit sur son territoire.
Ben merci beaucoup, puis merci à vous d'avoir bravé l'apéro au soleil sur les quais pour venir vous enfermer à l'intérieur de la cité. Donc à un moment, j'ai quand même aimé vous entendre, parce que si vous êtes déplacé, c'est qu'à mon avis, vous avez quand même deux, trois questions. Ou alors vous êtes obligé. Je sais que Alice, par exemple, est obligée d'être là, elle est en stage avec nous. Ouais, Samuel Charvet, peut-être pour me situer un tout petit peu. Moi, j'ai plusieurs métiers. À la base, je fais partie d'un collectif d'indépendants qui s'appelle WeShare, qui... travaille sur toutes les notions de commun, d'économie collaborative, voilà. Et on aime bien choper des sujets dans les marges et se dire, tiens, comment est-ce qu'on va arriver à influencer des institutions? Voilà, ça c'est un peu notre taf. Et on y arrive plus ou moins, mais donc on fait des explorations, on a un magazine, on interview des gens, on fait des événements, etc. Après, j'ai une web-série qui s'appelle Hyperlien sur les tiers-lieux. Voilà, donc à un moment... Qui connaît les tiers-lieux, tiens? Est-ce que vous pouvez lever la main? Eh ouais, ça, on est quand même en 2022, hein, on rigole, mais... Tiens, bah, ouais... tiers lieu, parce qu'on va beaucoup en parler, donc du coup je vais peut-être vous redonner, il y a deux, tu veux dire ce que c'est qu'un tiers lieu? Ah non, pas du tout, non, le terme de tiers lieu, excuse-moi, ouais, tu connais le terme de tiers lieu, c'est ça? Et qu'est-ce que c'est qu'un tiers lieu alors? Il fallait prendre la parole, hein. Ouais. Claire serait pas d'accord avec ça, effectivement. Ouais. Merci, mais tu peux venir, avec nous et puis faire la conf. Non, mais merci, parce qu'effectivement, tiers-lieu, ça vient de Ray Oldenburg, et donc c'était the first place, des espaces tiers entre la vie pro et la vie perso, c'était ça à la base. Et donc, en général, les deux exemples qui sont cités, c'était la médiathèque et c'était surtout, ça vient des États-Unis, hein, donc c'était dans les suburbs américains. Je ne sais pas si vous avez déjà cette vision, enfin, pour moi un peu d'horreur, mais il y a sûrement des gens qui aiment beaucoup, sur des kilomètres et des kilomètres de quartiers périurbains. Et donc, en fait, tout d'un coup, il y avait tellement peu de lieux de vie qu'en fait, le garage américain devenait cet espèce d'endroit un peu étonnant où, effectivement, on arrivait, on sortait, on bricolait des trucs, puis en fait, il y avait des gens qui ramenaient, en fait, on ramenait un bouquin, et en fait, on se retrouvait finalement à remettre du public à des endroits où il n'avait pas forcément. Donc ça c'était, et après c'est effectivement c'est arrivé en France. Donc alors le terme de tiers-lieu, disons que pour le coup, je vais amender un tout petit peu ce que tu dis, c'est-à-dire que le terme de tiers-lieu, avant d'avoir été récupéré par l'État et acheté contre quelques millions, ça a d'abord été un concept qui notamment en plus a été forgé à Saint-Étienne, donc a été récupéré, donc le terme de tiers-lieu, donc l'un des premiers tiers-lieux qui s'est revendiqué comme tel, c'était à Saint-Étienne. Disons que ce qui effectivement, et je reviens complètement sur ce que tu dis, je te rejoins, disons que dans le terme de tiers-lieu, c'est des choses qui ont toujours existé, quoi. D'ailleurs, tiers-lieu, effectivement, et pareil, j'ai bien aimé la distinction que tu as faite entre un lieu et l'espace tiers, et en fait dans le tiers-lieu, ce qui est intéressant, c'est le tiers. C'est-à-dire, c'est cette espèce, nous, dans différentes personnes qu'on a pu interroger, la meilleure définition qu'on a eue, c'était, d'ailleurs la personne nous disait, moi le lieu, finalement je m'en fous, ce que j'aime bien c'est le tiers, et cette espèce de collectif qui permet à des personnes de vivre un processus d'individuation et de retrouver une place dans la société, ou en tout cas de l'avoir. Et donc en fait, des tiers-lieux, ça a toujours existé, j'ai un ami qui fait des confs sur les tiers-lieux, il commence toujours en disant, le plus vieux tiers-lieu c'était les monastères, quoi. C'est-à-dire c'était des lieux où on prie, on mange, je veux dire on se rencontre, voilà, après ça c'est critiquable, hein, mais voilà, en tout cas c'était et donc du coup dans les tiers-lieux effectivement il y a cette idée et ce qui a permis d'exploser on va dire effectivement, donc il y a toujours plein d'activités, il y a des intentions extrêmement différentes suivant qui constitue le tiers-lieu, c'est quoi les collectifs qui se mettent autour, suivant avec de la puissance publique ou pas, avec des acteurs privés ou pas, avec des acteurs marchands ou des acteurs non marchands. En général quand même dans l'acceptation d'un tiers-lieu, il y a quand même souvent la rencontre entre différentes typologies d'acteurs et par exemple un tiers-lieu n'est jamais que marchand. Voilà, en tout cas, ce serait un peu triste. Et il y a quand même, si on veut résumer, on va quand même pouvoir dire que c'est quand même, en général, proposer une façon de faire société. Et quand même, il y a toujours un projet, une visée politique, quel que soit le but derrière, dans le sens de prendre place à la vie de la cité et permettre à des gens de s'inscrire là-dedans. Ce long préambule, pour vous dire que du coup, le troisième taf que j'ai, c'est effectivement de monter un tiers-lieu nourricier. Donc ça, on pourra revenir là-dessus. J'ai un peu travaillé pour aujourd'hui, j'ai même été regarder des études, etc. Pour se dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on a calé comme concept ? Pourquoi on a calé ça ? Et effectivement, peut-être pour revenir au point de départ, on pourrait presque dire, il était une fois, c'est un peu ça. Le tiers-lieu nourricier, donc à la Martinière, Juan, vous voyez ? On sait que vous êtes à Lyon, que vous êtes un peu snob, mais est-ce que vous voyez un peu ? Est-ce que vous voyez un tout petit peu ? Je sais bien qu'il existe. Il existe quelque chose en dehors de Lyon qui s'appelle la campagne. Et c'est vrai que t'as raison, c'est moins snob que Paris quand même. Non, mais Rouen, donc c'est à une heure d'ici. Et c'est, nous, en plus, on habite sur la côte rouennaise. Et donc, je reviens un tout petit peu effectivement sur l'histoire. C'est ce qui a intéressé Béatrice. Parce qu'on est un peu des sujets d'études potentiels. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a invité. Elle s'est dit, potentiellement, les prochaines années, je pourrais quand même observer des personnes comme ça. On va l'inviter pour voir ce que ça vaut. Et ce qui est marrant, effectivement, si on doit reprendre d'un point de vue un peu anthropo, c'est que nous, nos tiers-lieux et notre démarche, c'est la rencontre déjà entre des générations, c'est-à-dire qu'en fait, moi je fais ça avec mes parents. Est-ce que c'est une bonne idée ? Ça, on pourra en reparler, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est la rencontre entre surtout mes parents, mon père notamment, qui vient du syndicalisme paysan, qui a été animateur à la Confédération paysanne. Donc, c'est-à-dire que Béatrice disait, bah, tiens, moi j'observais les circuits courts. Moi, mon père était l'acteur qui mettait en place des circuits courts, en tout cas à l'échelle de la Loire. Et donc, du coup, proposer un autre modèle du monde paysan. Qu'est-ce que ça veut dire des AMAP, vendre en vente directe, etc. Et à un moment, en plus, il a voulu passer un peu de l'autre côté du Rubicon. Et donc, il s'est installé dans une ferme qui appartenait à mes grands-parents. Voilà, bon, c'est très consanguin tout ça. Et donc il s'est installé, il a fait du vin et il a tout de suite proposé d'autres modèles. Pareil, un tiers-lieu, moi j'aime bien dire que c'est dans les murs et hors les murs, toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, une des peut-être comparativement à d'autres modèles, parfois on parle d'oasis, de machin, on pourrait débattre extrêmement longtemps sur les termes, mais en tout cas, en général, dans un tiers-lieu, il y a quand même une ouverture et une prise avec le territoire. Il y a toujours un dialogue là-dessus. Et donc nous, il y a toujours eu ce côté-là, c'est-à-dire que mon père a monté, avec ma mère aussi, une CUMA, donc la mutualisation de matériel agricole, une des premières CUMA qui n'existait pas du tout dans le viticole. Ils ont monté des vignes relais. Bah tiens, il y a des gens qui ont envie de s'installer. Comment on fait pour que des jeunes qui ont envie de s'installer, qui n'ont pas de moyens, l'accès au foncier, bon, si vous voulez, on peut prendre un des multiples problèmes. En fait, ce qui est génial ce soir, si vous prenez la question de l'agriculture et de l'alimentation, c'est que vous avez tous les problèmes du monde réunis en un seul et même sujet. Donc vraiment, on pourrait débattre. Vous allez voir, bien sûr, on va pouvoir parler des problèmes de transition écologique, des problèmes d'installation, des problèmes d'argent. Enfin voilà, on va pouvoir vraiment prendre un peu tout ça et le mixer un peu à l'intérieur. Donc ça c'était le départ. Donc on va dire un gros impact sur le territoire. Enfin, un gros impact. En tout cas, une façon de faire sur le territoire, de faire à plusieurs et de faire avec différentes organisations, donc des acteurs de la société civile, entre guillemets, donc pareil, des porte-voix, etc. Et après, dans le lieu, il y a toujours eu, pareil, une tradition d'ouvrir la ferme. Et donc c'est là où je te rejoins complètement, c'est-à-dire que... Et où je te rejoins, pareil, excusez-moi, tu t'es pas présenté du coup ton prénom, c'était... Je te cite beaucoup du coup, mais... Ouais. Ben, merci à toi. Et donc du coup, c'est des... Par exemple, la ferme a toujours été ouverte, et avant que le terme de tiers-lieu arrive, c'était déjà un tiers-lieu avant l'heure, mais comme il y a toujours eu des lieux ouverts sur des territoires, heureusement d'ailleurs, et donc du coup, il y a toujours eu un peu cet ADN-là, pareil, donc de proposer des portes ouvertes, ils ont monté un réseau de fermes pédagogiques à plusieurs pour embarquer des enfants du territoire en disant, bah tiens, qu'est-ce que c'est une agriculture biologique, qu'est-ce que ça veut dire, des portes ouvertes avec des marchés de producteurs fermiers, ils étaient un peu les premiers à faire ça, en tout cas en local, voilà, donc il y a toujours eu un peu cet ADN-là. Arrive du coup ma personne. Moi, je me retrouve à être dans plusieurs milieux, notamment le milieu de l'entrepreneuriat social, de l'ESS, etc. Et en fait, mes parents entament un peu une réflexion qui est ça va être quoi une ferme au XXIe siècle ? En sachant que aujourd'hui, c'est pas évident. c'est teasing, mais c'est vraiment sympa, on pourra en reparler. Et donc, ça fait depuis 2015 où chaque été, on ramenait tout un tas de potes, architectes, designers, activistes, entrepreneurs, pour réfléchir et se dire ce serait quoi. Et puis, on en profitait surtout pour manger et bouffer. Mais quand même, il y avait aussi un peu de ces réflexions-là qui infusaient. Arrive le Covid, voilà, je ne sais pas si vous en avez parlé. Donc du coup, un petit accélérateur effectivement de particules. On se retrouve avec la ferme qui, économiquement en plus, était un peu en galère. Et donc on en profite pour accélérer un peu le projet, parce que ça fait déjà un moment qu'on se disait, tiens, quand même, si c'est un tiers lieu, la ferme, elle propose déjà des choses comme ça, elle est déjà ça. Donc, et après, on pourra reparler effectivement de l'utilité ou pas de s'appeler avec des terminologies à la mode et qu'est-ce que ça permet ou qu'est-ce que ça ne permet pas. Et donc, du coup, en 2019, on a lancé un crowdfunding pour justement permettre d'accueillir des gens. On a travaillé ça en chantier participatif. On avait des potes qui nous parlaient de low-tech, de réemploi, de choses comme ça. Hop, on a essayé de faire une cabane en autoconstruction. Bon, c'était censé être une petite cabane, c'est un truc de 70 mètres carrés. Enfin, on s'est un petit peu emballé. Mais du coup, qui nous permet de loger une quinzaine de personnes. Voilà, d'ailleurs, si vous êtes tous, c'est toutes les bienvenues. Donc ça, c'était le point de bascule. Et parce qu'en fait, avec les campagnes de crowdfunding, ce qui est toujours intéressant, moi, je viens parler un petit peu du milieu du numérique, c'est que ça permet, bien sûr, d'accolter de l'argent. Bon, bah ça, à la limite, ça, c'est la partie cool. Mais ça permet surtout de construire et de coaguler des communautés. Et en fait, on s'est rendu compte que, moi, j'avais une communauté au niveau national, mais ça, c'était mon métier. Donc, à la limite, c'était pas tant ça la question. Mais surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait une empreinte locale et un portage local qui était assez impressionnant, quoi. C'est-à-dire que l'endroit où on a le plus d'argent, alors que moi, bon, Rouen n'est pas connu pour être une terre de millionnaires. Bon, après, on pourrait parler de Monsartou et de la Côte d'Azur, c'est un peu différent pour le coup. Et donc du coup, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait vraiment un engouement autour de ce projet. On s'est dit, tiens, on tient un truc quand même. Et donc, on s'est enfermé, bon, ça tombe bien, on n'avait pas le droit de sortir, mais on s'est enfermé dans la ferme pour essayer de se dire, bah, tiens, ça pourrait être quoi, justement, le modèle, qu'est-ce qui nous intéresserait. Et ce qui est intéressant, c'est que... Donc on a, c'est essentiellement familial, et puis après avec le réseau qu'ils avaient, donc on pourra les citer, mais c'est des réseaux classiques que peut-être pour certains vous connaissez, ADR, Vivre Bio, enfin voilà, tout un milieu. Mais on va dire en fait un milieu, et ça pareil, je pourrais y revenir, mais après ce sera quand même cool qu'on ait quand même un peu d'interaction. Un milieu, on va dire, d'une certaine d'un certain milieu associatif qui en plus est vieillissant. Enfin, aujourd'hui, heureusement qu'ils ont été là, heureusement qu'ils ont fait des choses, mais en tout cas chez nous, c'est un peu la même génération et qui aujourd'hui arrive à 55, 60, 65, donc qui ont fait des choses absolument extraordinaires, mais en même temps aujourd'hui il y a un besoin de renouvellement. Et ça, du coup, je dis ça parce que du coup, c'est vrai qu'on a été assez vite sur la proposition d'un modèle et on s'est dit tiens, il y a un enjeu. Pareil, on pourrait y revenir sur quels sont les modèles aujourd'hui qui marchent un tout petit peu. Disons qu'on est sorti de cette réflexion avec trois constats. On est sorti avec le constat que il y a la moitié des agriculteurs en local, mais c'est la même chose partout, donc ça c'est pratique, qui vont partir à la retraite d'ici 5 ans. Et en fait, la quasi-intégralité de leur ferme est impossible à reprendre en état. C'est pas nous, c'est-à-dire c'est même ouais, exactement, c'est toutes les institutions. Voilà, exactement, qui nous explique ça, etc. Donc ça, c'était un premier point. Donc en fait, et avec pareil cette espèce d'interrogation sur des gens qui veulent massivement s'installer. Ça, c'est vrai que c'est pareil. Un de nos ADN, c'est qu'on a une emprise en très locale avec, on va dire, un tissu associatif issu du syndicalisme paysan, de l'éduc-pop, etc., qui est là préexistant. Et moi, finalement, je me retrouve à être une espèce de pont avec toute une génération de néo-ruraux qui souhaitent s'installer, des collectifs de designers, des collectifs d'architectes, des entrepreneurs, et qui se disent tiens, qu'est-ce que ça veut dire? On a tous lu Bruno Latour, on nous a dit il faut atterrir, bon, bah, comment on fait? Voilà. Et donc, en fait, on se retrouve un petit peu avec cette articulation. Là. Et donc ça, c'est un des premiers constats, c'est de se dire, ben voilà, il y a des gens qui ont envie de s'installer et en même temps, il y a l'impossibilité de reprendre l'état. Ça veut dire quoi? Quel est le modèle qu'il faut qu'on propose pour que des agriculteurs, en tout cas des gens, puissent s'installer et continuer cette activité nourricière? Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, effectivement, et je vais l'utiliser à dessein. Moi, j'aime bien utiliser justement. Vous avez compris, moi, je suis la partie un peu plus. Déjà, j'ai un peu plus de liberté de parole qu'une collectivité publique, je peux dire des choses. Voilà, parce que. On est soutenu, mais on est soutenu un peu haut, donc ça va. Et justement, on utilise le mot de souveraineté alimentaire, sachant que Rouen, c'est un territoire de droite. Voilà, je pourrais vous dire autre chose. Et donc, du coup, nous, quand on a dû choisir un de nos constats, on a choisi à dessein un terme qui parlerait à la droite. Et autant vous dire que souveraineté et résilience, c'est génial, ça parle à tout le monde. Et donc du coup, pareil, en faisant un constat, on a bien sorti les petits chiffres, mais il y avait 75 heures d'autonomie alimentaire pour la ville de Rouen. Et en se disant, on n'est quand même pas pourtant dans un endroit où tout est bétonisé avec des buildings, des agriculteurs partout, c'est quand même absurde de se dire que si demain on coupe les appros, il y a 72 heures, et puis après les Rouennais sont là. Bon, c'est sympa, on n'a plus à manger, c'est quand même un petit peu triste. Et après, le dernier point, et non des moindres, mais ça, c'est, on va dire, c'est l'éléphant. En fait, il est tellement énorme. À la limite, sur les deux premiers constats, il y a des acteurs, il y a des choses. Enfin, je veux dire, encore une fois, quand on écoute Claire, quand on écoute Béatrice, c'est pas la découverte. Et par contre, sur le dernier point, et ça, c'est effrayant, sur la partie, tout d'un coup, quand on dit, ah tiens, il y a aussi le changement climatique, et effectivement, nous, on va avoir d'ici... On ne sait pas, on espère le moins tôt possible, mais on a déjà des problématiques de stress hydrique, et on en a déjà depuis 5 ans, et autant vous dire que ce n'était pas exactement le cas sur les 30 dernières années. Donc si on se retrouve avec le climat de Marseille, on a sacrément intérêt à l'avoir anticipé, parce que sinon, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose qui pousseront. Nos chaînes sont très sympas, mais ils ne vont pas tenir longtemps. Ça, c'est dans trois constats, et du coup, face à ça, on a fait un truc un peu... Malheureusement, vous avez compris que j'ai fait Sciences Po, donc j'ai une façon d'ordonner, de présenter les choses. Mon père le ferait absolument différemment. Ce qui est bien, c'est que vous prenez chaque acteur du tiers-lieu, chacun va vous présenter le truc qui n'a absolument rien à voir. Alice pourra témoigner là-dessus. Et on s'est dit, tiens, on va essayer de mettre des pôles. Donc on a mis un gros pôle. On s'est dit, en fait, on a besoin de recherche et on a besoin d'expérimentation. On a besoin que des chercheurs viennent travailler avec nous, on ne va pas s'en sortir tout seul, et on a besoin de pouvoir expérimenter des modèles très vite, très fort. On n'a pas exactement le temps que d'autres ont pu avoir pour expérimenter, donc il va falloir aller assez vite. Et du coup, comment est-ce que le lieu et comment est-ce que l'écosystème qu'on va bâtir sur le territoire va nous permettre d'expérimenter hyper fort? Sachant que, et je donnerai des petits exemples de ce qu'on a fait comme action, voilà, pour vous donner un peu des idées. Le deuxième point, c'est comment est-ce qu'on va former et comment est-ce qu'on anime ce réseau d'acteurs. Enfin, vous avez bien compris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de toute façon, si on veut être crédible sur une transition alimentaire d'un territoire, les chaînes de valeur classiques, les acteurs classiques, sont absolument inopérants. Enfin, je veux dire, c'est même d'ailleurs assez dingo qu'on n'en soit pas encore à ce constat-là. Donc, c'est pas, en fait, c'est pas un choix de bosser avec la collectivité, bosser avec des assos de consommateurs, bosser avec des agriculteurs, mais aussi bosser avec des CCAS. En fait, si on veut prendre cette question-là et bâtir quelque chose de pérenne sur les 10, 20, 30 années, enfin, en capacité d'encaisser des chocs, parce que c'est quand même ça qui va se passer, ben, on a sacrément intérêt à être un bon nombre d'acteurs autour de la table. Et nous, une partie de notre constat issu, ben, mon père et toute une partie de ma famille issue du milieu paysan, allez, je vais jeter un petit pavé dans la mare, ça ne viendra pas d'eux. Voilà. Ça ne viendra pas du monde, uniquement du monde paysan, en tout cas ces changements-là. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, l'injonction à faire porter sur le monde paysan les transitions dont on a besoin, c'est quand même d'une violence hors norme, sachant qu'il y a 50 ans, on les a sortis de la polyactivité en mécanisant et en faisant passer à l'agriculture conventionnelle à marche forcée. Moi, c'est ce qu'ont vécu mes grands-parents. Et donc, aujourd'hui, ils sont... C'est pareil, on ne va pas faire un cours sur le capitalisme, mais en tout cas, bon, on va dire qu'ils ont un petit peu moins de marge de manœuvre qu'à l'époque. Donc, ils se retrouvent avec des tailles d'exploitation, surendettés, etc. Je veux dire, à l'heure où on parle, il y a toujours un, deux ou trois agriculteurs qui se suicident par semaine. Ça a quand même un sens. Soit on peut se dire, bah tiens, merde, ils se suicident. Soit on peut se dire, ah, c'est peut-être un petit peu lié avec le modèle dans lequel on les a mis, qui est un modèle qui crée quand même du désespoir. Donc voilà, donc ça, comment est-ce qu'on arrive à le choper? Et le dernier point... Excusez-moi, c'est toujours un petit moment de bug. Ah oui, et donc comment est-ce qu'on travaille sur donc le deuxième pôle, vous avez compris, c'est activer les acteurs sur place et les former. Voilà, comment est-ce qu'on va mettre des formations, ça veut dire quoi installer, comment se retrouver à peut-être 15 acteurs aujourd'hui pour pouvoir installer des gens, parce que si on les forme mais qu'ils ne peuvent pas s'installer parce qu'ils n'ont pas accès et qu'ils n'ont pas assez de capital, bah, c'était très sympa de les former, mais ça ne servira pas à grand-chose. Et donc, du coup, le dernier pôle, et non des moindres, c'est un qu'on a appelé citoyenneté, sensibilisation. Mais c'est pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même un constat qu'une partie des acteurs de la société civile, une partie, sont en avance comparativement aux acteurs, en tout cas plus institutionnels, et aux collectivités. Et donc, il y a un besoin de pouvoir s'appuyer là-dessus et de pouvoir massivement embarquer des personnes pour pouvoir peser sur des politiques publiques. Une fois que je vous ai dit ça, je vous donne des exemples, et puis après, premier, on passe aux questions. Une fois que j'ai dit ça, par exemple, sur le premier, donc le premier qui est recherche-expérimentation, on a une personne, c'est pour ça que je faisais un petit clin d'œil à Alice, qui on a fait donc un partenariat avec Boutique des Sciences, Université Lyon 2, et donc de se dire, ben, tiens, on a besoin d'avoir des personnes qui viennent nous observer, qui viennent penser, qui viennent juste déjà poser les mots. Est-ce que, voilà, tous les mots qu'on balance, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la réalité que ça recoupe, etc. Et donc on a Alice qui va être là pendant 6 mois autour de ça. On a aussi, par exemple, on travaille beaucoup avec des écoles de design. Là, on va avoir toute une programmation sur la Biennale du design de Saint-Etienne, justement en leur disant, c'est quand même marrant, vous parlez de la bifurcation, vous en parlez entre designers. Alors soit, bah, c'est vraiment juste vous qui allez bifurquer et nous emmener vers un autre modèle de société, soit vous avez oublié 2-3 acteurs, et ce serait peut-être sympa de leur donner la parole, notamment sur l'alimentation. Et voilà, ils ont dit, ah oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Non mais c'est toujours un peu, c'est à la fois un peu marrant et un peu triste parfois de se dire ouais, l'entre-soi quand même c'est quand même un vrai problème en France. Et donc voilà, donc on bosse beaucoup, il y avait l'école Boulle par exemple, l'école Design Boulle, ils sont venus en séminaire pendant une semaine, ils ont travaillé sur toutes nos problématiques, ils ont proposé des œuvres autour de ça. Le deuxième pan, donc cette histoire d'animation d'acteurs et de formation, là on va proposer des formations tiers-lieux nourriciers, des initiations. Voilà, des gens ou des collectifs qui ont envie de passer de l'envie à l'idée, de l'idée à l'action. Comment on les embarque? Comment on peut les former? En tout cas, comment on peut cogiter un peu avec eux? On ne prétend absolument pas avoir la bonne réponse. Et comment est-ce qu'après, on anime des choses sur le territoire? Comment est-ce qu'on impulse? Donc, on a fait des temps souveraineté alimentaire avec 15 acteurs, etc. C'est une tannée. Je ne vous cache pas que ça, on pourra en parler, mais la mobilisation des acteurs, justement, vu que c'est un peu le thème de ce soir... Ouais, ça va pas gagner quand même. Ça, c'est le petit aparté. Et le troisième point, on a tout un principe de jardin partagé. Donc, on est en train de créer un parcours à plusieurs acteurs, avec famille rurale, avec, je crois qu'il y a aussi la Croix-Rouge. Donc, voilà, comment est-ce qu'on peut créer un parcours de jardin partagé? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça permet de la graine à l'assiette, de se réapproprier ce qu'on plante, choper des techniques de permaculture? Et après, comment on transforme? Enfin, en général, on se rend compte que si on veut faire switcher des gens, leur apprendre à planter des légumes, c'est super chouette. Mais encore faut-il qu'ils sachent le transformer après et cuisiner. Et la cuisine végétarienne, c'est pas non plus la France, c'est pas non plus une terre d'asile. Voilà, on est ici avec Paul Bocuse. C'est pas non plus une terre d'asile de la cuisine végétarienne. Enfin, je veux dire, c'est presque un peu l'opposé. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à embarquer des gens pour qu'ils s'approprient les techniques de cuisine, etc. Voilà. Et donc, nous, tout ça pourquoi, à la limite on pourrait dire, on assume d'avoir, en tout cas on a déjà un présent, et peut-être même un futur, de renouveau des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on assume de dire, en fait, on a notre place à la table des politiques publiques, et notamment, on travaille très bien avec le PAT, mais moi par exemple, je n'ai aucune croyance sur le fait que c'est le PAT qui définit les axes sur lesquels on doit travailler, et que ce n'est pas un travail de faire remonter avec les acteurs et les incapaciter pour qu'eux-mêmes puissent porter voilà, puissent s'insérer dans la vie de la cité. Enfin, je suppose que vous êtes là aussi ce soir, c'est aussi parce que vous avez envie de prendre part à. Et après, une partie de notre démonstration qu'on a envie de faire, c'est qu'on a une ferme d'une taille de à peu près une quinzaine d'hectares. Et donc on ressemble à des petites fermes que les gens pourront avoir demain. Et donc si on fait une partie de la démonstration qu'il y a plusieurs modèles aujourd'hui qui sont des modèles en contre de l'agriculture conventionnelle, enfin en contre en tout cas, qui sont des modèles autres. Et c'est vrai qu'on fait le pari que les tiers-lieux nourriciers, donc des fermes, mais auxquelles il y a des activités autres qui font que le tiers-lieu et la pression financière n'est pas uniquement sur ceux qui produisent, parce que je veux dire, c'est pareil, c'est un sacré baltrap de laisser les agriculteurs en première ligne face à l'économie de marché. Enfin, vraiment, ça ne fonctionne pas, il faut appeler un chat un chat. Ou alors, ça fonctionne à la marge. C'est dans de la survie, quoi. Je veux dire, gagner 1 200 € par mois, quand vraiment ça marche, en bossant 70 heures semaine, on peut se dire que c'est quelque chose de sympa à proposer, mais je suppose qu'il n'y a pas grand monde ici qui aura envie de vivre ça. Les générations d'avant, peut-être, mais... Il y a des questions ?
Oui.
Eh bien voilà, des questions, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé.
Allez, opération questions pour les trois intervenants et intervenantes.
Si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous êtes contre.
Aux Espagnols qui, en ce moment, ils disent c'est pareil, comment on fait pour vivre, quoi, alors qu'on achète ce qu'ils produisent, rien du tout, quoi, 50 centimes, enfin voilà. Et en France, la situation qui est décrite, que vous décrivez vraiment, elle est en fait dans toute l'Europe. Et moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que du coup, si effectivement on arrive à identifier, par exemple à l'échelle de la France, du foncier, des gens qui veulent s'installer, et des banques qui aident, on pourrait, pourquoi pas, créer une plateforme pour que, du coup, bah, les gens qui veulent s'installer aient accès, du coup, à des prêts bancaires et à des gens qui les aident sur le territoire à avoir ce foncier et avoir des personnes qui les aident à... Bah, en même temps, on se dit, justement, avec le digital, il y aurait quand même des... Je sais pas... S'il y a une vraie volonté politique et qu'on arrivait à faire ce constat-là, parce qu'il n'est pas nouveau, hein, ça fait au moins, je sais pas, ce que vous dites, ça fait au moins 10 ans, sincèrement, que, voilà. Enfin, en tous les cas, formaliser de cette façon avec ces mots, enfin, voilà. Donc, du coup, est-ce que, du coup, ça existe ou est-ce que, voilà.
Alors, moi, je vais juste rebondir sur le fait qu'à mon sens, il manque peut-être un acteur dans votre intervention, qui est le consommateur. Parce que le budget moyen alimentaire des ménages en France ne fait que drastiquement baisser d'année en année. C'est-à-dire que le consommateur, aujourd'hui, il n'a plus envie de mettre de l'argent dans l'alimentation. Parce que... Non, c'est parce qu'il a redirigé une part de son budget sur d'autres choses qui n'existaient pas il y a 10, 15, 20 ans. Par exemple, le numérique, par exemple, le smartphone, par exemple, l'abonnement Internet, l'abonnement Netflix, l'abonnement, etc., qui coûte extrêmement cher. C'est-à-dire qu'il y a, alors je n'ai pas les dates précises, mais il y a quelques dizaines d'années, l'alimentation, c'était le premier poste alimentaire, le premier poste budgétaire, pardon. Aujourd'hui, en moyenne, c'est entre 17 et 20%, je crois, gros max. Donc on n'est plus du tout... Donc à mon sens, quand on raisonne ça, il va vraiment falloir aussi sensibiliser le consommateur. C'est-à-dire que si on veut bien manger, il va falloir aussi revoir la façon dont on dépense notre argent aujourd'hui. Et je vais laisser par contre Claire rebondir sur les foncières.
Oui, ce que tu dis,
Alors, c'est très compliqué, évidemment, puisque la propriété reste privée en France. Mais il y a des collectivités territoriales qui ont monté des foncières. Bon, il y a Terre de Liens qui existe, que vous connaissez tous sûrement de nom. Mais il y a aussi des collectivités territoriales qui ont monté des foncières, c'est-à-dire des systèmes, enfin des fonds d'intervention foncière, en lien avec la SAFER, qui est l'organisme qui, en fait, contrôle les cessions de foncier agricole. Voilà, pour effectivement... Mais bon, ça reste... Enfin, je pense que ça va prendre de l'ampleur. Pour l'instant, ça reste assez anecdotique. Je sais pas si tu en connais, toi, Samuel. Moi, je connais, bon, dans la Drôme, il y en a une ou deux.
Oui, si tu veux. Ça marche ou pas? Ça marche? Oui? C'est censé? Non.
Oui, mais c'est pour l'enregistrement. Mais bon. Pas que ce que je vais dire, ça va être super intéressant. Mais... tu veux...
J'ai passé l'autre micro. Ouais. Il marchait avant. Oui.
Allô, allô? Non? Oui, c'est bon? C'est bon ou pas? J'entends pas, moi, si. 1, 2, 1, 2.
J'ai perdu tous les micros. C'est pas grave, on va faire 100.
On aurait de l'argent, du coup, pour racheter des terrains. Et on a engagé des approches auprès des propriétaires privés, comme tu l'as mentionné, Claire. En fait, le gros problème en France, c'est que la propriété, elle est privée. Et même nous, en tant que collectivité, et même en portant un projet qui fait du sens pour le territoire, et même en impliquant les acteurs locaux, les propriétaires fonciers ne veulent pas nous céder leurs parcelles. Ils ne veulent même pas les mettre à disposition pour qu'on puisse les exploiter. Donc faire des baux ruraux sur 20 ans ou j'en sais rien. Donc même en tant que collectivité où on a le pouvoir d'acheter, on a de la difficulté à acquérir du foncier.
Je pense aussi, enfin, à chaque fois on est sur des petites expérimentations. Sur la métropole de Lyon, il y a des réflexions pour développer l'agriculture urbaine, récupérer du foncier agricole. Et il y a des projets qui sont en train de se développer et qui sont pas de toute petite taille. Hein. Par exemple, sur la commune de Pierre-Bénite, sur Saint-Fond, sur Villeurbanne. Après, la question, même s'il y a du foncier, il y a une des problématiques qui est encore d'un autre ordre, c'est la question de la pollution de la terre. Et donc du coup qui ne favorise pas forcément le développement agricole sur toutes les terres et surtout pas sur les terres urbaines, même si on sait que maintenant qu'il y a des terres polluées, très polluées aussi sur les territoires ruraux. Mais bon. Je pense par exemple il y a une expérimentation qui a lieu, je crois que c'est à Saint-Péret, donc c'est encore l'Ardèche, mais là où c'est la volonté de la mairie de laisser du foncier pour développer des projets agricoles plutôt que de développer une nouvelle zone commerciale. Donc c'est aussi des choix politiques qui sont faits à un moment donné.
Du coup, ma question ne portait pas spécialement sur le foncier. J'avais une question d'abord pour Samuel. C'était, du coup, comme tu dis que finalement la ferme sur laquelle tu es, et puis toutes les fermes, en fait, enfin beaucoup de fermes, ont toujours été quelque part des tiers-lieux, nourriciers d'autant plus, puisque production d'alimentation. Quel est l'intérêt de catégoriser et de mettre le label quelque part tiers-lieux nourriciers et d'appeler ces lieux-là des tiers-lieux. Et je profite pour poser ma deuxième question qui concerne plus tous les intervenants et les intervenantes. Donc on a bien compris que la gouvernance alimentaire territoriale, elle devait se faire avec plein d'acteurs différents autour de la table, donc paysans, consommateurs, élus, etc., chercheurs potentiellement. Du coup, qui pour animer ce type de dynamique? Est-ce que c'est le rôle de l'État, des associatifs? Quel rôle potentiellement de la recherche pour être quelque part accompagnateur ou animateur ou je ne sais pas de ce type de mise en commun? Parce qu'on sait bien que qui va l'animer, ça va forcément teinter un peu. Qui décide de mettre les gens autour de la table, ça teinte forcément le projet ou la dynamique. Et donc, de votre point de vue, les différents projets que vous avez pu voir, quel type de porteur est le plus intéressant, pertinent, complet? Et du coup, est-ce qu'il faut des nouveaux métiers peut-être aussi pour accompagner ce type de démarche pluripartenariale avec des gens, avec des cultures de travail différentes? Merci.
Eh bien, à quoi ça sert? Alors déjà, toutes les fermes ne sont pas des tiers-lieux nourriciers. Parce que, en fait, il faut quand même une ouverture sur le territoire, il faut quand même travailler avec des acteurs du territoire. Or, à la limite, peut-être que toutes les fermes en polyactivité, dans les époques précédentes, l'étaient. Il y avait vraiment des contacts, c'était dans un agriculteur classique, avec des personnes qui vont à une coopérative qui va envoyer au Maghreb. On n'est pas sur un impact extraordinaire. Donc, à la limite, déjà, ces endroits-là, ça sert à... Et puis surtout... On va appeler un chat, mais je pense qu'ici, ce qui est bien, c'est que ça marche pour la recherche, ça marche pour beaucoup de choses. C'est comment fonctionne, parce qu'on peut se dire, tiens, et le modèle économique au fait de tout ça? Eh bien, si on veut porter des démarches de politique publique, ça vaut le coup d'avoir de l'argent. Et en fait, ces mots-là, en fait, ils permettent aujourd'hui d'accéder à. C'est-à-dire que nous, là, quand on passe par le côté tiers-lieu, là, on vient d'obtenir un financement, donc avec Fabrique de Territoire, un financement pluriannuel de 50 000 euros. Autant dire que si on avait dit « Ouais, on a une ferme, on est vraiment hyper sympa. » Franchement, et on nourrit des gens, et on est un peu ouvert et tout, mais jamais on aurait eu de l'argent. Et j'irais même un cran plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça fonctionne pour la recherche, etc. Enfin, j'ai bien assez d'amis chercheurs je pense qu'Hélène, on en a déjà un peu parlé, mais je veux dire, cette espèce de course pour pouvoir... expérimenter, tester des choses à l'argent et où en fait ça devient de plus en plus complexe d'aller chercher ça et ça demande une ingénierie de projets, de choses comme ça qui est absolument dingo. C'est-à-dire que moi j'estime pas que c'est moi qui apporte la valeur sur le tiers-lieu. Par contre, on m'enlève aujourd'hui, il y a absolument une incapacité des personnes qui sont là et qui... Enfin, je veux dire, moi, je ne suis pas agriculteur, je ne sais pas faire pousser un légume, quoi. Donc, dans un tiers-lieu nourricier, je suis très sympa, mais je ne sers quand même pas à grand-chose. Et pourtant, aujourd'hui, c'est moi qui suis en capacité de remplir des dossiers et d'aller chercher des ronds. Mais ça, c'est un dialogue, ça, c'est un peu la chance qu'on a en plus dans mes métiers à moi, c'est que je me retrouve quand même à accompagner des grandes agences d'État, donc on se retrouve dans des rapports de force, quoi. Mais clairement, s'il y a un endroit à politiser aujourd'hui, c'est cet endroit-là, hein. C'est les indicateurs qu'on te met dans des dossiers et le fait à un moment, et ça d'ailleurs on pourra parler un peu de Mansartou, mais Mansartou qui est un des endroits test, référence en France sur la transition alimentaire, etc. Je veux dire, j'avais encore Gilles Perrol qu'on a fait intervenir devant une grande agence d'État. C'est bien, il climatise toujours tout le monde un peu. Il arrive, il dit, très simple, donc on est cité par toutes les grandes agences comme un démonstrateur, machin, à l'Europe, et tout, etc. Il dit, on doit mais quémander pour avoir 100 000 euros. Et moi, aujourd'hui, 100 000 euros, ça me paye deux personnes, quoi, sur un an, donc c'est sympa. Et le temps que ça me demande, donc aujourd'hui, je suis finalement presque dans un constat qu'il faut d'aller chercher dans des fondations privées. Enfin voilà, c'est juste pour dire, mais ça, c'est un endroit où, politiquement, aujourd'hui, si vous voulez aborder ce sujet-là, c'est un peu clé. Et après, sur l'animation, mais je pourrais passer, mais en fait, il y a besoin de plusieurs acteurs, il y a besoin de plusieurs façons de faire, hein. Là, je le vois, nous, on travaille énormément avec le PAT. Le PAT est un outil absolument formidable et j'ai vraiment foi dans les personnes avec qui on travaille. Par contre, s'ils n'ont pas de locomotive avec des acteurs de la société civile qui poussent des trucs, ben en fait c'est une coquille vide, c'est sympa, hein, mais en fait c'est juste, c'est une coquille vide. En tout cas, tu te retrouves dans les mêmes limites de l'action publique des collectivités aujourd'hui, et on va même appeler un autre truc qui fait un peu plus mal, c'est qu'il y a besoin aujourd'hui de tiers de confiance, c'est-à-dire que Claire en parlait en disant « Ah oui, on est obligé maintenant de mettre de la participation », donc en fait, des collectivités qui mettent de la participation, mais je veux dire, si c'est consulter les gens pour enterrer le dossier quelque part après un endroit, bon, bah c'est pareil, hein, ça s'appelle la Convention citoyenne pour le climat, c'est hyper sympa, mais c'est quand même une sacrée douille. Et donc du coup, après les gens ont plus envie de revenir, donc en fait aujourd'hui en termes de confiance de la puissance publique et des collectivités, c'est faible. Donc, et nous on le voit parce que moi par exemple, et après on peut même encore en plus situer les gens qui le font. C'est-à-dire que moi, j'ai un bac plus 5, j'ai fait Sciences Po, je travaille avec, je gagne des ronds en faisant des propositions sur des PowerPoint. Je veux dire, je gagne autant en 2 jours que mon père en 1 mois. Ça me situe quand même à un endroit. Et donc, en fait, quand le tiers de confiance, c'est moi, avec la novlangue que je vais utiliser, etc., bon, c'est pareil, hein, ça ne fait pas participer grand monde. Et je vois d'ailleurs, en général, c'est très drôle, je sais con, j'aurais dû l'amener ce soir, je sors mon père, qui est la caution paysan, il redit, en général, tout ce que je dis dans un rendez-vous, il redit exactement la même chose, et les gens acquiescent. Et moi, je dis les trucs, vraiment, je sens que je les ai perdus, quoi. Je veux dire, je sens la terreur, parfois, dans le regard des gens, je suis en train d'expliquer les trucs, et tout, etc., je sens que je suis en train de leur raconter un truc de bac plus 20, un peu comme ce soir, et là, tout d'un coup, lui, il remet avec des mots, il remet avec des trucs, et là, hop. Ça fédère, on sent qu'il y a une étincelle dans le regard, etc. Et du coup, quid de la recherche?
Ça, c'est, c'est quoi la question?
Oui, j'ai envie de te répondre aussi, Hélène, sur... Ah, il reste 5 minutes, ok. Pas forcément, je crois, dans l'institution, non. Alors, du coup, je suis un peu perdue là. Je voulais répondre à Hélène. Oui, je pense qu'effectivement, les acteurs peuvent être très différents suivant les territoires. C'est-à-dire, par exemple, sur Lyon, ce qui a porté en fait la première gouvernance alimentaire territoriale, c'est pas les élus, c'était les acteurs de la société civile, c'était le PTCE, le BOL. Qui a porté pendant quasi 10 ans, bon, ça s'est essoufflé, mais ça revit sous une autre forme, avec Territoire à vivre, avec d'autres acteurs qui effectivement ont récupéré, je dirais, l'énergie des premiers collectifs et qui sont associés aujourd'hui avec la mairie ou avec la métropole. C'est ce qu'on disait aussi un petit peu en introduction, c'est qu'il n'y a pas de totale stabilité sur ces sujets-là. Voilà, on est en permanence dans des zones d'incertitude et qu'il faut apprendre à vivre avec, quoi, et qu'on n'a pas de modèle économique qui sont, à mon avis, complètement stabilisés, en tous les cas, pas dans les tiers-lieux ou dans ces nouvelles formes de collectifs sur les territoires, il me semble. Et la place de la recherche, il y a peut-être des spécificités locales aussi, mais... nous, il y a une forte synergie, je dirais, sur le territoire lyonnais, hein, entre les élus, les chercheurs de différentes disciplines. Je ne suis pas sûre qu'on ait l'équivalent de cette dynamique-là partout. Et qu'on est beaucoup sur des logiques, on le sait bien par la transition alimentaire, mais sur des interfaces sciences et sociétés qui fonctionnent relativement bien. Je pense qu'on a réussi à être vraiment dans des formes de co-construction sur ce territoire-là. Ce qui n'est pas du tout le cas sur le territoire ardéchois sur lequel j'étais, par exemple. Où là, c'est plutôt les acteurs locaux et les chercheurs qui travaillent ensemble, et les politiques publiques ne sont pas du tout là, quoi.
Ce que je voulais dire, c'est que... Alors, effectivement, il y a une grande diversité d'acteurs de l'animation ou du portage sur ces questions-là. En plus, avec l'institutionnalisation des pattes et tout ça, on voit une recrudescence d'experts, de bureaux d'études. Enfin, là, il y a un peu des travaux en cours là-dessus. Il y a aussi les réseaux associatifs qui se sont beaucoup investis là-dedans, heureusement. Il y a aussi les organisations agricoles classiques, type chambre d'agriculture et leurs satellites. Et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans notre projet, on a écrit aussi un manifeste. Ça a été tout un travail qu'on a appelé pour une transition agroalimentaire juste et écologique. Ça a été aussi tout un travail de faire signer les gens et tout. Et un des enjeux qu'on soulève dans le manifeste, c'est ça, c'est la diversité de l'ingénierie. C'est-à-dire maintenir ça. parce qu'en fait, il y a une tendance, et le CTE, là, par exemple, en Ardèche, dont on parlait, le contrat de transition écologique, en gros, la règle, ça a été, il y a trois opérateurs, alors je ne les citerai pas, et tout doit aller à ces trois opérateurs-là. Et justement, ça devient un véritable problème aussi. Donc voilà, après la recherche peut être un des acteurs, puis en plus il y a aussi il y a souvent des complémentarités entre de l'animation de réflexion collective et du portage de programmes d'action. C'est pas forcément exactement les mêmes acteurs, mais moi j'insiste aussi sur la diversité là-dessus, parce que ça devient un marché, enfin tout est marché, mais je veux dire là c'est un marché particulièrement en plein développement en France.
Bonsoir. Moi, ma question, c'est comment et en combien de temps on peut faire changer nos habitudes alimentaires, et est-ce qu'il existe une socialisation alimentaire ?
Qui veut se lancer ?
Il n'y a pas de, enfin, je te passerai, Béatrice, il y a pas de réponse univoque. C'est-à-dire, on voit, enfin, moi, j'ai travaillé sur les trajectoires de consommateurs pour le coup, et effectivement, on voit des rythmes de changement qui peuvent être extrêmement rapides, et puis des inerties. Il y a des inerties énormes qui sont liées, évidemment, à des questions de ce qu'on appelle le paysage alimentaire, c'est-à-dire ce qui est accessible ou pas, l'accessibilité financière elle-même, et puis des questions culturelles. Mais je pense que ça peut changer très vite quand il y a une volonté, que ce soit des acteurs d'un territoire ou des consommateurs eux-mêmes. Mais bon,
C'est pas très mes questions, mais c'est pas trop mes recherches, mais peut-être que Stéphanie pourrait répondre. Non ? Peut-être de façon plus pertinente. Non, il me semble.
Merci. Bonjour, donc moi je suis chercheuse en sciences de gestion, en comportement du consommateur, donc je m'intéresse plus à l'individu. À titre individuel et effectivement au comportement individuel qu'on essaye de changer, qu'on essaye de faire évoluer, moins à l'aspect donc c'est la différence entre les sciences de gestion et la sociologie, où la sociologie va plutôt étudier l'ensemble de la société, donc je ne peux pas trop répondre sur l'ensemble de la société. Par contre, à titre individuel, effectivement, on a des manières, des façons de s'en... Mais on revient sur les thématiques abordées, hein, la sensibilisation, l'accessibilité individuelle. Et il y a effectivement une vraie... faut que la volonté soit individuelle, je pense, d'abord. Ça part de chacun individu et après, ça s'agrège au niveau collectif. Donc il y a une vraie sensibilisation à faire de ce côté-là et à rendre aussi plus accessible. C'est exactement ce qui vient d'être dit. C'est que le consommateur, il va aussi s'adapter à ce qu'il trouvera, à son paysage alimentaire, qui va l'entourer, hein. Donc c'est lui faire comprendre qui peut accéder à de l'alimentation, et c'est ce sur quoi on travaille actuellement avec le projet de la Chartralim et la ville de Lyon. On s'est associé avec la Gonette, la monnaie locale, pour que ça reste en local, avec l'association des agriculteurs bio du Rhône et de la Loire, et l'idée c'est de rendre plus accessible. Alors notre cible c'est les étudiants, donc voilà, nous on va travailler sur à titre individuel sur la cible étudiante et voir comment on peut faire changer individuellement ses comportements pour rendre changer les comportements, les faire amener vers une transition alimentaire, enfin ces étudiants, de se dire que on a commencé un petit peu à travailler depuis janvier concrètement sur une expérimentation où il y a beaucoup d'a priori sur l'agriculture biologique notamment, c'est trop cher, c'est pas accessible pour les étudiants. Or quand on travaille avec les acteurs du terrain, on se rend bien compte qu'il y a plein de choses qui sont faites pour cette cible. Donc il y a juste un problème, je pense, aussi de méconnaissance de certaines populations. En tout cas, nous, on a décelé, entre autres, ça. Et le problème de l'accessibilité, il est très fort. Donc, je pense que, mais je suis d'accord sur le fait qu'on peut changer très vite les choses, moi, je pense.
En tout tout cas, c'est une excellente question pour conclure, parce que c'est un tout. Ça fait partie, c'est le programme de la chaire justement de questionner ça, avec aussi un regard historique. D'ailleurs, on a des historiens dedans, parce que faut voir comment nos habitudes alimentaires ont changé avant. C'est aussi intéressant. Des transitions alimentaires, on en a connu plusieurs. C'est une raison pour laquelle on met le terme au pluriel et qu'on y tient. C'est-à-dire qu'on ne va pas dans une direction, mais on questionne toutes les directions vers lesquelles on pourrait aller. Donc c'est un moyen de détourner l'usage du terme transition. Et c'est intéressant d'avoir aussi beaucoup de chercheurs en sciences sociales, parce que l'alimentation, c'est pas ce qu'il y a une socialisation alimentaire, c'est que l'alimentation, c'est notre premier moyen de socialisation. D'un point de vue même primordial, le premier rapport à l'autre qu'a un bébé, c'est le moment où il jette sur le sein de sa mère juste après être sorti, quoi. Donc vraiment, c'est... Et souvent, les anthropologues, on nous dit, quand on découvre une société, un des meilleurs moyens de commencer à lire un peu les rapports hiérarchiques, les rapports entre les gens, c'est de manger avec eux. Parce que c'est un des moments où on voit énormément de choses. Donc, oui, clairement, la socialisation alimentaire, elle existe, et c'est même l'essence même de l'alimentation pour les humains. Et même, peut-être chez certaines autres espèces, mais on ne va pas aller jusque-là. Merci beaucoup à tout le monde, et je vous invite à la prochaine édition dans un mois. Voilà, le troisième jeudi du mois, 2 mai, et le troisième jeudi... deuxième ? Ah bah oui, le deuxième. Oui. Donc je reprends, le deuxième jeudi du mois de mai et le deuxième jeudi du mois de juin. Et l'année prochaine, on va repartir, j'espère, pour d'autres sessions. Et ces créneaux seront peut-être partagés aussi avec d'autres acteurs de la recherche. On est déjà en discussion. Il n'y aura pas que la chaire Tralim qui viendra parler sciences et alimentation sur ces créneaux-là. Merci beaucoup à tout le monde.